Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Singapour sur le circuit de Marina Bay qui, encore une fois, a vu une victoire de Sébastien Vettel. Oui, ça... les habitudes sont revenues pour m'accompagner ce soir. Bonsoir Dino.
Bonsoir Chidi, bonsoir chers auditeurs.
Mm-hmm. Et Dino, ce soir nous ne sommes pas seuls.
Non, nous avons deux invités exceptionnels. L'un se retrouve sans slip depuis à peu près 6 mois. Et l'autre en a un, mais il n'en change pas depuis à peu près 6 mois. Bonsoir, Gus Gus, bonsoir, Fab.
Je sais pas si je préfère pas ne pas avoir de slip au final. quand on y réfléchit bien.
Vous êtes content d'être le fond de tiroir cette semaine? Voilà, on n'avait pas d'invité, hop, on ramène les chroniqueurs.
Attends, mais c'est pas comme ça du tout que ça nous a été présenté.
Nous, on nous avait dit, on prend l'eau du panier, du coup, on en profite. Non.
Revalorisation salariale, voilà. Libération de slip, enfin, toutes les conditions étaient réunies pour qu'on vienne, merde.
Voilà, on est poignardé dans le dos.
Je me suis arrêté à revalorisation salariale. Mon cerveau a fait bug.
J'aurais alors, dû commencer par libérer le slip. Enfin.
Oui. Messieurs, comme d'habitude, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix?
Bah, comme d'habitude, à Singapour, c'est un Grand Prix un peu mitigé parce qu'il y a des différentes phases avec les safety cars. On a toujours un début de course qui est relativement plan-plan parce que tout le monde se suit, etc. Et une fois qu'arrive la voiture de sécurité ou les voitures de sécurité, ça dépend, tout d'un coup, ça s'anime un petit peu. Il y a la stratégie qui rentre en compte et ça devient intéressant.
Merci, Daniel.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est vrai, le début, oh, qu'est-ce que c'était chiant le début de la course quand
même.
Ah
oui, mais parce qu'ils attendaient tous le safety car.
Le safety car,
ouais. C'est assez terrible, ce circuit, il est victime de ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire un circuit où le safety car va sortir parce que c'est un circuit où dès qu'il y a un accident, la voiture se retrouve quasiment à tous les coups. Alors on a vu que c'était pas vrai forcément à chaque fois, mais quasiment sur la piste. Voilà, quoi, les mecs attendaient tempérer les pilotes pour leur dire attention, le safety car peut sortir à tout moment, je veux dire, la première partie de course, c'était une partie de course d'attente, quoi, exactement.
Et c'est elle qui nous offre aussi la fin de course qu'on a eue, quoi. Enfin, voilà, on peut pas. C'est toujours le même problème. On a eu plusieurs fois cette remarque-là. C'est dès qu'un Grand Prix est un peu chiant au début, c'est parce qu'on se regarde et qu'il y a des stratégies qui se mettent en place et qui viennent animer la fin de la course. Ça a été le cas ce week-end. Moi, j'ai trouvé la course très intéressante, pas passionnante au sens où action et compagnie, on est accroché devant sa télé, mais très intéressante à regarder, à analyser, à vivre, parce que voilà. Moi, je trouve que ça a été l'une des courses les plus intéressantes de l'année.
Et t'as pensé quoi des essais libres?
Je dois dire, le moment où Hamilton a roulé dans le virage 3, j'ai adoré.
Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, oui.
Ouais. Je dois dire que je suis l'heureux parrain d'une petite fille qui s'appelle Lou, qui est ma nièce et ma filleule désormais, et que donc pour ces raisons-là, j'ai fait passer la Formule 1 au second plan. Ça s'appelle être responsable, messieurs.
Mais t'as vu le Grand Prix quand même.
Ouais, ce baptême était terminé. Moi, je suis parrain le temps du baptême.
Alors, un invité exceptionnel, début exceptionnel. Non, je déconne, il y aura aussi un éphéméride cette semaine.
Pourtant, ils ont tout fait, les invités, pour y passer.
C'est 2 secondes d'espoir pour les auditeurs, c'est quand même traître. Hein.
Moi, je suis content de l'éphéméride. Ça me ferait chier qu'ils disparaissent, l'éphéméride. Enfin bon. Voilà, moi, je suis comme ça.
Ça se voit qu'il veut son slip. Hein.
Alors, souvenez-vous, messieurs, nous étions le 22 septembre.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Messieurs, le nombre de cette semaine, parce que je dis tout le temps chiffre, mais en fait je devrais dire nombre.
Tout à fait.
Eh bien, le nombre de cette semaine est 222.
C'est le tiers de 666, est-ce qu'il faut prendre peur?
Alors, je suis diabolique, mais non, ça n'a pas de rapport.
Bon, tant mieux.
Est-ce que ça a un rapport avec les agrafeuses?
Non.
Non, parce que la semaine dernière, ça avait pas mal marché, cette technique, mais visiblement, pas à chaque fois, quand même. Est-ce que ça a un rapport avec un événement ponctuel?
C'est-à-dire un événement qui se répète?
Non, qui...
Non, un événement en forme de point.
Exactement. Un événement, oui, qui...
Bah, c'est lié à un événement précis, oui.
C'est bien, c'est un petit peu, tu viens un petit peu, je te dis, de synthétiser le but de cette éphéméride.
Mais, bah, c'est
lui qui était lié à un événement précis.
Écoute, il pose la question, je lui réponds.
Oui.
Non, mais je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé plusieurs fois ou ça s'est passé qu'une seule fois?
Non, ça s'est passé qu'une seule fois.
Voilà, c'était le but.
Donc rappelons que ça n'a aucun rapport avec la Formule 1.
Là, non, vraiment pas.
Mais deux ans, de manière générale, je... jamais, je dis, arrête.
Mais non, mais parfois, il y a des rapports très éloignés. Donc là, je vous dis vraiment non.
T'as un rapport avec le sport ?
Non.
Non.
Des objets manufacturés ?
Non.
Je connais mes classiques.
Oui.
Je suis admiratif.
J'ai fait ma checklist.
T'as vu comme il écoute l'émission, c'est fou.
Elle commençait la saison 2002. On faisait pas de SAV à l'époque, mais quand même, il l'a commencé.
C'est vos meilleures années.
Allez, des questions.
222. Est-ce que c'est un chiffre avec une unité derrière ?
Oui, on pourrait y mettre une unité derrière.
Mais on n'est pas obligé.
On n'est pas obligé, c'est vrai, on n'est pas obligé.
C'est un nombre d'objets ?
Non.
Est-ce que c'est physique ?
Non, c'est pas physique.
Est-ce que l'événement en question, on pourrait en entendre parler en cours d'histoire ?
Oui.
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 C'est un événement qui s'est déroulé le 2 février de l'an 2.
Non.
Ah, dommage.
Donc c'est
je suis con, parce que la question est super conne, puisque c'est un événement qui est censé se dérouler le 22 septembre.
Oui.
Je n'ai rien dit.
Mais il y avait quelque chose dans ta question qui était intéressant.
Ça s'est déroulé en l'année 222 ?
Non. Le Finnegan demande si on a le droit d'échanger sur le chat. Oui, bien évidemment.
Mais nous, on ne regarde pas.
Ah oui, c'est vrai.
Enfin, les invités ne regardent pas. Moi, je jette un œil discret pour voir si tout se passe bien.
Oui, tu modères. Si quelqu'un n'a
pas trouvé, non. Non, non, ils n'ont pas trouvé sur le chat. Ils sont très calmes sur le chat, même.
Est-ce que c'est un événement très loin de notre époque ? À échelle humaine ?
Oui, enfin, c'est-à-dire, c'est quoi pour toi, loin ?
À l'échelle humaine. Ouais,
10 minutes.
Parce que 15 siècles et 300 ans, tu vois, il y a une différence.
Ah, la naissance des dinosaures le 22 septembre.
À échelle humaine, messieurs, s'il vous plaît, un petit peu de sérieux, la rigueur. Est-ce que c'est un événement qui date des premiers siècles après Jésus-Christ, par exemple ?
Ah non.
C'est beaucoup plus proche.
Oui.
C'est du 19e, du 20e ?
Non, ni 19e, ni 20e.
Mais le 222, c'est lié à une date ?
Oui, c'est lié à une date.
Ça a un rapport avec le fait que ce soit le 22 ?
Oui.
Donc le 222 que tu nous demandes comme nombre a un rapport avec le 22, le jour de la date ?
Oui.
C'est une heure, c'est 2h22.
C'est pas 2h22, c'est 222.
222. Attends, je suis en train d'essayer de voir quel est le rapport entre 222 et 22.
Est-ce que c'est quelque chose qui dure 222 et qui se termine le 22 ?
Oui, on peut le dire, mais ça ne se termine pas le 22, ça continue. Ce qui fait que ça augmente.
Ah, c'était 222 au 22 septembre.
Oui.
Ah, c'est 222e, c'est le 222e jour de l'année.
Non.
Oh, l'autre, si c'était ça, franchement.
Ça, c'est un cours d'histoire, on en entend bien parler, ça.
C'était la 222e fois un 22 septembre.
Oui, on peut le lire aussi comme ça.
Et le 21 septembre, c'était la 221e fois.
En effet, au 21 septembre, c'était 221.
Et au 20 septembre, c'était la 220e fois.
Non, au 20 septembre, c'était aussi la 221e fois.
Il est pervers. Ce garçon est pervers. Il cherche à nous humilier en live et je trouve ça dégueulasse.
Non, mais de toute façon...
Ce que tu fais est absurde.
Ça doit être son 60e éphéméride ou 50e et il y prend toujours autant de plaisir.
Oui, hein,
hein, mon cochon.
C'est parce que tu prends pas la bonne unité de temps.
Moi ?
Oui.
C'est le 200... Non, mais ça...
La semaine.
C'est pas la semaine.
Moi ?
C'est pas les mois.
Année ?
C'est les années.
222e année.
Oui.
C'est cette année, la 222e année.
Oui.
Oh là là, là.
Ah, attends, ça nous emmène à 2013.
Ce n'est pas la fin de l'été. Enfin, si, c'est peut-être la fin de l'été, mais le 22 septembre, mais...
Attends, 222, donc ça fait 1791.
C'est un rapport avec la Révolution ?
C'est un rapport avec la Révolution.
Ce serait pas la loi Le Chapelier ?
Non, c'était pas la loi Le Chapelier.
la Constitution ?
Non.
Attends, le 21 septembre 1791.
C'est pas 1791. Il y a pas d'année zéro.
Hein ? Pas d'année zéro.
Ah,
c'est l'année du calendrier révolutionnaire.
C'est le 18 brumaire.
On aurait décidé la 222e année du calendrier révolutionnaire.
Exactement.
Oh putain, les mecs. Ah, mais j'ai fait ça pour rien, j'ai pas le droit à ta gueule. Ah.
Eh non, parce
que c'est vraiment dommage, hein.
Oui, nous sommes entrés hier dans la 222e année du calendrier républicain ou calendrier révolutionnaire. Tout à fait, on peut l'appeler aussi comme ça. Qui démarre, en effet, le 22 septembre 1792, c'est-à-dire à la chute de la royauté et la proclamation de la République. Donc c'est ce, vous savez combien de temps il a été mis en place en France, ce fameux calendrier républicain, finalement, parce que c'est la 222e année, mais on s'en sert plus depuis bien longtemps.
Tu veux dire qu'on n'est pas en Floréal?
Non, parce que, on est en Vendémiaire.
Parce que je le vois bien.
Ah ouais, c'est le Vendémiaire, merde.
Oui.
Allez hop, ça, ça aurait été coupé, vous voyez.
On serait pas en Vendémiaire, par hasard.
Il a été utilisé de 1792 jusqu'en 1806. Ah, pas même. Très longtemps finalement, mais une bonne dizaine d'années, hein. Et ça fait partie de ces idéaux révolutionnaires, un peu comme le système métrique. Les révolutionnaires français ont voulu offrir au monde, qui n'attendait que ça, un calendrier qui serait complètement déconnecté de considérations religieuses, historiques. Et donc, ils ont conçu ce calendrier qui, en fait, n'a été vraiment mis en place que l'année d'après, parce qu'il a fallu le concevoir. C'est, au niveau des noms, des mois et des jours, ça a été conçu par le poète Fabre d'Églantine avec l'aide du jardinier du Jardin des Plantes du Muséum d'Histoire Naturelle.
Ah oui,
c'est une remarque qui est très importante, parce que ça explique les noms de jours et de mois.
Oui.
Et alors, vous savez comment il était structuré, ce calendrier?
Bah, j'imagine que si ça commence un 22 septembre, ça a un rapport avec les saisons.
Alors oui, au niveau des mois, en effet, ça avait un rapport avec des saisons, et les jours étaient composés de choses de la nature, notamment, et de l'agriculture. Le calendrier était découpé en 12 mois, de 30 jours, tous 30, hein, et on rajoutait, à la fin de l'année, 5 à 6 jours en rab, qui s'appelaient les sans-culottides. Hein. Donc 5 la plupart des années, et tous les 4 ans ajouter un 6e jour en fait pour rattraper le calendrier classique.
Donc ils étaient pas fins, les révolutionnaires, quand même.
Attends,
oh, les gars, on va pas se faire chier. On va faire des mois de 30 jours et à la fin on verra, on fera les soldes.
On fait des
tiens
soldes.
Francis, c'est ton jour, on appellera ton jour de Francis.
Il faut savoir que la journée avait été découpée en système décimal aussi. Elle comportait 10 heures découpées en 10 parties, elle-même décomposable en 10 parties. Bizarrement, ça a été plus appliqué à partir de 1795. Donc ça, ils l'ont évacué assez rapidement.
Il est quelle heure, chérie? Attends. Je pose 3, je retire 9.
C'est carrément ça, en plus.
C'est 8,5,4.
Déjà.
Alors, Mike Patton dit quel puits de science, Shinji. Surtout, je suis un très bon lecteur de Wikipédia.
Il faut a quand une connexion internet, je veux dire.
Oui.
Ah, c'est le Jean-Paul Olivier. Du...
C'est ça son secret. Il a une connexion internet. J'ai jamais pensé qu'il avait une connexion internet.
Voilà.
Pourtant, j'aurais dû être sur le chemin, mais non.
Voilà, voilà.
Et les mois étaient divisés en 3 décades. Donc, c'était des semaines de 10 jours.
Ils avaient le culte du chiffre 10, quoi.
Voilà. Donc, les mois, référence, donc, en effet, plutôt aux saisons. Vendémiaire, c'est les vendanges. Pluvieuse au janvier, c'est parce qu'il pleuvait. Floréal, c'était avril-mai pour l'épanouissement des fleurs. C'est que des noms comme ça. Et donc, bien évidemment, les jours, hein. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un côté très universel, normalement, dans l'idée du calendrier, hein. Sauf que vous n'allez pas trouver la mangue, la banane, vous voyez, ou le café. Non, vous trouvez le salsifis, le topinambour, le roseau, que des trucs finalement très français. Hein.
Aujourd'hui, on est topinambour. Topinambour moins 17.
Voilà. Quelle joie.
Alors par exemple, tiens, Dino, ta date de naissance, c'est laquelle?
Le 18 avril.
Le 18 avril, eh bien tu es né le jour de la myrtille.
Je déteste ça.
Et Fab, quel jour? Le 2 mai, oh, tu es le jour du bâton d'or.
Oh bah oui.
Personnellement, le 1er juin, je suis né le jour du poids. Et Gus, tu es né quel jour?
Le 20 janvier.
Le 20 janvier.
Tu es né le jour de la crêpe.
Non, tu es né le 1er jour du mois de pluviose, le jour de l'auréole.
Merde.
Tu sais, nous on est des trucs qui se bouffent, toi t'es ce qui se trouve sous le bras.
Ouais, c'est ça.
Tu me disais aussi.
Tout s'explique.
C'est une plante qui s'appelle comme ça, mais c'est moche quand même.
C'est parce que je le vois bien.
Excellent.
Le jour du chou-fleur, par exemple, est le 27 novembre. Le jour de jour de Noël, c'est le jour du chien, par exemple, parce que tout est voilà, c'était décalé. Donc normalement, si on était resté sous le calendrier révolutionnaire, nous serions en l'an 222 de la République. Ça fait un peu début de Star Wars quand je dis comme ça. Ah, encore une fois, Dino, t'as été fort, t'as été très très fort.
Bah, c'est le talent, je crois. Voilà, c'est
l'expérience, ouais. Surtout comparé Rookie ou Sam avec Fab.
Vous a donné quand même le temps de vous entraîner dans le SAV, dans les mags. Là, déjà, vous avez perdu piteusement.
Mais c'est parce que ça a un rapport avec la F1 dans les mags. C'est complètement différent.
Totalement. Et puis là, en plus, c'était une question donnée, hein, vu ta formation d'historien.
C'est vrai qu'ils ont fait la même formation, donc ils ont un peu les mêmes trucs dans la tête.
Vous percez en demi.
C'est pas comme si calendrier révolutionnaire, personne n'en avait entendu parler non plus. Hein.
Bah, écoute, mon petit gars, on n'est pas toujours au fait de ce qui se passe il y a 200 ans. Tu vois ce que je veux dire? Hein, les Français ont des problèmes concrets qui doivent être réglés. Hein,
bon. J'étais pas né.
Oui, c'est ça. Ça m'intéresse pas.
Et alors, en F1, ce jour-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses intéressantes. J'ai noté quand même.
Non, le calendrier révolutionnaire a tellement tout capté,
non,
ce qui était intéressant.
Non, mais parmi la F1, je sais pas.
La Formule 1, ils se sont dit, non, les gars, calendrier révolutionnaire.
Le 22 septembre.
On reste discret.
Attention, il faut quand même laisser quand même l'éphéméride à Shinji, quoi, qu'il ait son petit moment de gloire.
Allez, vas-y, Shinji, on te le laisse. Vas-y.
On peut
à
noter
toi.
Le Grand Prix du Canada 1974 à Mosport Park. Victoire de Fittipaldi, mais en fait c'était ça, il avait fait la pole position et c'est sa dernière pole position, et ce qui m'a étonné en fait c'est que c'était sa sixième pole position. Lui qui a quand même été double champion du monde, qui est quand même un grand nom de la F1.
Oui, mais à l'époque les championnats duraient 3 grands prix.
Les pilotes aussi.
La moitié seulement, la moitié.
Parce que les mecs étaient les plus rapides, en général c'est celui qui se fait le premier.
C'est pour ça. Que ce soit en pourcentage ou en nombre, il fait partie des moins bons champions du monde en termes de pole position. Hein. Je veux dire, bon, Keke Rosberg, par exemple, voilà, il est à 5, par exemple.
Il est champion du monde, Keke Rosberg, quelle horreur.
Oui, rappelons-le, Keke Rosberg a été champion du monde.
Breaking news, Keke Rosberg, champion du monde. Retrouvez dans quelques instants notre dossier spécial sur cet événement miraculé aujourd'hui. Nous venons d'apprendre que Keke Rosberg était champion du monde. Nous recevrons dans cette émission spéciale Laurent Cabroc, qui nous expliquera comment les conditions climatiques ont pu jouer sur ce repli temporel.
Et nous apprenons à l'instant que Keke Rosberg a un fils qui fait de la F1 en ce moment. Nous vous informerons plus d'infos d'ici quelques minutes.
Sur son palmarès.
Oh, t'avances pas, c'est pas dit qu'il en est un palmarès, c'est bon.
Donc voilà, c'était tout ça, pour l'éphéméride.
C'est un bel éphéméride, Shinji.
Non, arrêtez de mentir, vous avez eu un mal
chaque
fou,
fois.
Oui.
Je suis un gros focus, c'est mon meilleur ami, je peux pas lui dire que c'est de la merde. Ce qu'il
en plus,
fait.
T'as gagné.
Ouais, c'est un bel éphéméride. Voilà, je peux pas diminuer ma victoire. C'était un fantastique éphéméride, Shinji.
Il faut toujours dire la vérité à ses amis, toujours. Shinji, ton éphéméride,
c'était
merveilleux, de la merde.
Alors Dino, normalement, on fait quelque chose d'habituel. Qui
oui,
est le quart d'heure ou l'heure de l'invité.
Habituellement, on fait quelque chose de normal, ça marche aussi, je veux dire.
Oui, oui.
D'habitude.
Dino, qu'allons-nous faire maintenant?
Bah, on va revenir un petit peu sur l'actualité du week-end. On va revenir sur les échos du paddock. On va pas faire genre, il y a un jingle, il y en a pas. On a juste imaginé la rubrique ce matin. Donc, soyons honnêtes.
Si vous avez l'impression que ce truc est fait à l'arrache, ça l'est.
Donc on va faire un petit tour de ce qui s'est dit dans le paddock ce week-end. Et puis à la fin, chacun nous dira s'il aurait lu l'article ou pas. Voilà, et on fera un petit retour sur l'actualité. Et donc évidemment, à Singapour ce week-end, Kimi Raikkonen a une nouvelle fois été au centre de l'attention médiatique après l'annonce de son transfert chez Ferrari. Le Finlandais, dont on reviendra sans doute sur les problèmes de dos, avouer que le non-paiement de son salaire était à l'origine de son départ de chez Lotus. Des déclarations qu'ont moyennement apprécié Gérard Lopez, propriétaire de l'écurie botanique, et Éric Boulier, son directeur. S'ils reconnaissent connaître des retards de paiement, ils assurent cependant que cela sera régularisé d'ici la fin de saison, que ce soit envers Kimi Räikkönen ou encore envers les divers salariés d'Enstone, dont, d'après le journal Swiss Blick, une vingtaine auraient fait acte de candidature chez les principaux concurrents de Lotus, certains ayant même déjà trouvé un poste. Autre écurie propulsée par le moteur Renault, Caterham a quant à elle officialisé la prolongation de son partenariat avec le motoriste français jusqu'en 2016 et n'a pas caché sa volonté de faire revenir Heikki Kovalainen. L'écurie malaisienne reconnaît cependant qu'il faudra pour cela faire des économies et trouver des soutiens financiers, puisqu'on le rappelle, Heikki Kovalainen ne veut pas payer pour son volant. Côté transfert, donc, on a évidemment parlé des candidats au baquet Lotus. Nico Hülkenberg s'étant même retrouvé quelques instants dans la peau d'un pilote Lotus grâce à la FIA qui l'a envoyé du côté d'Enstone le temps de la conférence de presse de jeudi. L'Allemand reste l'un des favoris pour remplacer Kimi Räikkönen avec Felipe Massa, le Brésilien qui, s'il devait voir Lotus lui claquer la porte au nez, pourrait éventuellement trouver refuge en DTM, puisque Toto Wolff Wolff estime qu'il serait un atout. Une déclaration qui sonne comme une proposition de contrat de la part du patron de la compétition chez Mercedes Motorsport. Mais le baquet Lotus n'est pas le seul de premier plan à pourvoir, puisque le suspense réside toujours autour de la prolongation de contrat de Jenson Button et Sergio Perez chez McLaren. En effet, si Martin Whitmarsh a affirmé qu'une reconduction de son binôme actuel était plus que probable pour 2014, il a laissé la piste ouverte, il a laissé la porte ouverte notamment à un retour de Fernando Alonso. Le directeur de l'écurie de Woking a d'ailleurs insisté sur le fait qu'une association Button-Alonso était parfaitement gérable, expliquant que Honda souhaitait disposer des meilleurs pilotes possibles et sous-entendant qu'ils étaient peut-être prêts à mettre la main à la poche. Annoncé sur le départ à plus ou moins long terme, après l'annonce de l'arrivée de Kimi Raikkonen chez Ferrari, Fernando Alonso a cependant affirmé vouloir rester au sein de la Scuderia et a même manifesté le souhait étrange d'y prolonger son bail au-delà de 2016. Il n'en fallait malgré tout pas plus pour relancer la rumeur Vettel, l'Allemand ayant été surpris en train de discuter quelques minutes avec Stefano Domenicali dans le paddock de Singapour. Donc, en attendant un éventuel retour de Fernando Alonso du côté de Woking et son remplacement par Sebastian Vettel à Maranello, après on ira voir qui ira remplacer Vettel chez Red Bull, mais ça c'est une autre question, peut-être que Red Bull n'existera plus, McLaren souhaite malgré tout placer ses jeunes espoirs, Kevin Magnussen et Stoffel Vandoorne, oh, j'ai réussi à le prononcer, je suis trop content, Jonathan Neal, le team manager de McLaren, ne souhaite cependant pas jeter ses deux jeunes loups dans la fosse aux lions, mais leur donner l'opportunité d'accumuler de l'expérience dans la catégorie reine, probablement dans un poste de troisième pilote, dans une écurie propulsé peut-être par un moteur Mercedes. Voilà, Force India, quoi. Donc, chez Mercedes, par contre, c'est de l'avenir de Ross Brawn dont il a été question ce week-end. Ross Brawn, c'est l'actuel directeur de l'écurie, futur ex-directeur de l'écurie. Le Britannique a lui-même démenti tout projet visant à racheter les parts détenues par Toto Wolff dans l'écurie Williams. Et donc, il a démenti tout départ du côté de Grove. Mais le paddock a surtout bruissé de rumeurs concernant la réglementation sportive 2014, des rumeurs, même des nouvelles, avec en vrac une réglementation sur les changements de décoration des casques, l'introduction de pénalités plus courtes pouvant se cumuler au temps d'arrêt au stand, l'allongement de la durée des essais libres 1 pour favoriser la participation des jeunes pilotes, ou encore la possibilité pour les équipes de monter des pneus différents à l'avant et à l'arrière de leur monoplace. Tout cela devant encore être approuvé lors du prochain Conseil mondial. Je pense, messieurs, que nous aurons le temps d'y revenir la semaine prochaine, dans une émission qui, je vous le rappelle, aura lieu donc mardi prochain, en direct sur le site du SAV de la F1, www.savf1.fr/live. Ça, je dis ça pour nos auditeurs qui nous écouteraient en différé. Je fais un peu de pub.
Oui. C'est bien.
Et donc, du côté du calendrier, vous le savez, la monture 2014 s'est enrichie d'un 22e rendez-vous, puisque le Grand Prix d'Amérique s'est provisoirement vu attribuer la date du 1er juin 2014. Le Grand Prix d'Amérique, c'est celui à New York, hein, c'est pas celui... Il se dispute où, le Grand Prix d'Amérique ? À Chantilly avec
je sais
les
pas,
chevaux.
Ouais.
Ah, on a le droit d'intervenir dans cette chronique, visiblement.
Donc, autre changement par rapport au calendrier, hein, le Grand Prix de Corée, désormais placé avant le Grand Prix de Chine, toujours en début de saison. Enfin, tout comme à Monza, il a été question à Singapour de l'avenir de Pirelli en Formule 1, le manufacturier italien qui a renouvelé son contrat de fourniture avec les championnats GP3 et GP2 ce week-end, pourrait prochainement signer un accord sur 5 ans avec la FIA. En attendant, le manufacturier milanais a dévoilé ses choix pneumatiques pour les 3 prochaines courses. En Corée, Pirelli reconduira donc son choix de Singapour avec les pneus super tendres et médiums, tandis qu'à Suzuka, pour le Grand Prix du Japon, les pneus les plus durs seront de rigueur. En Inde, enfin, les pneus tendres feront leur retour associés aux pneus médiums. Donc voilà, messieurs, je pense que c'est à peu près tout pour ce qu'il s'est dit ce week-end dans le paddock.
Très complet.
C'est déjà pas mal.
Ouais.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous auriez lu et pas lu sur Fan F1 ou sur tout autre site d'actualité durant ce week-end ? En gros, quelle information vous a intéressé et quelle ne vous a pas intéressé ?
Très sincèrement, l'avenir de Ross Brawn, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais je me précipiterai pas dessus, très sincèrement. Après les déclarations de Raikkonen, j'ai lu. Alors d'un point de vue personnel, j'ai pas apprécié en fait. Alors j'entends bien le discours qui consiste à dire que ça brise le l'aseptisation ambiante du milieu de la Formule 1, c'est sûr. Après, ça reste quand même une
tendance. Si tu piques mes arguments déjà.
Non, mais enfin, c'est pas tant les tiens que ceux qu'on entend, bien sûr. Hein, mais voilà, enfin, c'est quand même de la tambouille interne. C'est pas quelque chose qu'il aurait lâché si la situation de son avenir n'avait pas été clarifiée. Je trouve d'ailleurs un peu dommage parce que Lotus lui a quand même fait confiance. enfin, lui a fait confiance. C'est, ils sont autant fait confiance l'un que l'autre. Mais voilà, enfin, ils lui fournissent une voiture qui est capable de jouer des podiums. Alors, c'est sûr que ne pas être payé, je pense que c'est énervant même dans sa situation. Mais enfin, ça reste quand même une voiture compétitive parce que aussi on rogne sur certaines dépenses qui sont pas des dépenses immédiates pour justement permettre d'avoir une voiture qui va tenir la route lors des grands prix.
Ça a d'ailleurs été l'un des arguments de Gérard Lopez qui a dit on a choisi entre le payer lui et payer nos employés et payer nos nouveautés, on a préféré payer nos employés et nos nouveautés.
Bien sûr, et c'est ce que Boullier disait aussi, et visiblement c'est une situation qui était déjà existante l'année d'avant. Bon, je veux bien qu'il soit arrivé à un point de saturation, mais bon, il faut quand même savoir aussi se tenir, quoi, c'est un peu dommage. Après, on peut pas lui... Voilà, bon, il a fait le boulot, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, je trouve que... C'est des déclarations dont on pourrait se passer. C'est bon. Alors après, je dis pas que si c'était des déclarations qu'il ferait après être parti de chez Lotus, je sais pas si ça passerait mieux de mon côté. Mais là, j'avoue que je sais pas. Ça me paraît être de la tambouille interne, quoi.
Bah, c'est vrai que on va pas lui reprocher pour une fois un pilote d'avoir répondu franchement. Après, c'est vrai aussi, je comprends que du côté de l'équipe, ils aient pas spécialement bien apprécié. Maintenant, la suite du week-end a montré qu'il restait très professionnel et que voilà, il continuait à se battre pour l'équipe.
Mmh. Totalement.
Non, et puis ça donne un vrai aperçu de ce qu'est, de ce que sont les finances de Lotus en ce moment. Parce que jusqu'à présent, c'était des bruits de couloir. C'était, il paraît que, on dit que, il paraît que, mais c'était rien de confirmé. Là, maintenant, Raikkonen nous dit de but en blanc, je n'ai pas été payé. Alors, on ne sait pas exactement depuis quand il n'est pas payé, mais il n'est pas payé. Apparemment, d'autres fournisseurs aussi ont des problèmes. Avec Renault, ça coince parce que pour l'instant, il n'y a pas assez de garantie financière.
Mais ça n'a toujours pas été officialisé d'ailleurs, le partenariat moteur à l'année prochaine n'est toujours pas officiel.
Ouais, tout à fait, donc ça nous donne un vrai aperçu de ce que sont les finances de Lotus en ce moment. Après, je suis d'accord que c'est de la tambouille interne, ça aurait peut-être pu rester interne, mais bon, nous on a des choses à retirer de là-dedans.
Oui, oui, bien sûr, de toute façon c'est clair que c'est éclairant aussi là-dessus. On est une équipe qui attend la fin de l'année pour régler toutes ses dettes, pour régler toutes ses dépenses, donc on est forcément sur une équipe qui, on le savait plus ou moins, ça c'est sûr, mais effectivement qui est en difficulté au point de sacrifier un certain nombre de dépenses pour parer aux plus urgents. On est quand même sur quelque chose qui tient du miracle en termes de performance et de capacité financière.
Ici, il faut aussi préciser qu'il y a une grosse partie de la dette. Alors, il y a des chiffres qui circulent, 120, 130, 140, 160 millions d'euros de dette pour Lotus. Il faut préciser qu'il y a une grosse partie, alors ça laisse beaucoup de dettes réelles, mais il y a une grosse partie du genre 60 ou 70 millions qui sont des prêts d'actionnaires. C'est-à-dire que c'est Génie qui prête de l'argent à Lotus. Donc, Lotus doit de l'argent à ses propriétaires. Donc ça, c'est des prêts sur le long terme, donc ils sont pas obligés de régler tout suite, donc c'est des prêts qui ne sont pas... c'est pas de la vraie dette, quoi. C'est juste tu dois de l'argent à tes actionnaires. Donc tant que c'est Génie qui reste à la barre, ça n'est pas un problème, parce qu'ils peuvent se rembourser un peu quand ils veulent, quand ils peuvent. Si jamais Lotus doit être vendu, en tout cas ou en partie à d'autres personnes, là ça deviendra plus problématique, parce que Génie va pas se gêner de réclamer de l'argent aux nouveaux investisseurs, quoi. En tout cas, va se rembourser avec l'arrivée d'argent frais.
Mais bon, c'est ce qu'on disait... C'est ce qu'on disait il y a quelques mois sur la dette de Lotus, qui est un véritable problème, et que même si Gérard Lopez dit la situation est pas si grave que ça, parce que le seul en qui ils ont une dette, c'est envers moi et je suis leur bailleur de fonds. Le problème, c'est que voilà, lui à un moment donné, est-ce qu'il va pouvoir supporter toute la dette qui est en train d'accumuler Lotus, et pour trouver des partenaires et pour aider à financer aussi, c'est pas facile d'avoir une telle dette, surtout on regarde d'un seul et même investisseur, quoi. C'est
non, mais et puis là visiblement
je trouve pas que ce soit une situation très saine, même si Gérard Lopez essaye de nous faire croire que c'est une situation qui est pas si grave que ça. C'est quand même pas très sain.
Non, et mais puis en plus, ils ont plus que Génie comme bailleur, quoi.
Milano demande sur le chat si Grosjean a été payé, lui. Il n'a rien dit, en tout cas.
Apparemment,
on
n'a
pas d'infos, mais après, comme c'est un pilote un peu payant qui est un pilote Total, est-ce que c'est pas Total qui, comme Alonso, lui verse son salaire directement? Ça, c'est une possibilité.
D'après les informations d'RMC, notamment d'Antoine Arlot, il serait dans la même situation. C'est-à-dire que voilà, lui n'en fait pas étalage, parce que de toute façon il sait très bien que lui il va falloir qu'il ait une ligne de conduite irréprochable en vue de l'année prochaine.
C'est même pas la même situation. Enfin, d'un côté, t'as un champion du monde qui a un baquet. Enfin voilà, il a juste à se pencher pour ramasser un baquet. Voilà. De l'autre côté, t'as Grosjean qui est un peu dans la situation d'un Hülkenberg. S'il veut avoir un avenir en Formule 1, il faut qu'il accepte de conduire. Il a la chance d'avoir une voiture qui lui permet aujourd'hui de briller quand c'est possible. Il faut qu'il fasse avec. Même s'il a pas le salaire, il sait très bien que ça viendra plus tard. Raikkonen aujourd'hui, entre guillemets, sa fortune elle est déjà faite. L'argent, il est là aussi pour en prendre plus. S'il est pas payé, il ira voir ailleurs parce qu'il sait qu'ailleurs on le payera.
Ouais, tout à fait.
Ah, sinon, sur les actus que t'as dit, une que je n'ai pas lue mais qui m'interpelle, c'est t'as parlé des décorations de casques qui pourrait changer l'an prochain.
Alors oui, visiblement la FIA réfléchirait parce que ce week-end la FIA réfléchit.
Bravo.
Ils ont réfléchi,
ça change.
Et ils ont profité un peu de ce Grand Prix de Singapour où on a vu un petit peu tout et n'importe quoi comme changement de casque pour dire que voilà, ça serait peut-être bien aujourd'hui de réglementer. C'est évidemment une mesure un petit peu anti-Vettel, mais c'est aussi une mesure un petit peu contre tous les pilotes. On a Hamilton qui a changé de casque, on a Verne qui avait un casque spécial, enfin quasiment tous les pilotes ont changé de casque. Et donc l'idée apparemment ce serait de n'autoriser qu'un seul changement de casque pendant la saison sans doute pour un événement pour un Grand Prix national ou pour Monaco, pour Singapour, voilà, pour ce genre d'événement.
T'as choqué, mais comment il va faire Sébastien?
Et ben, il va dévoiler sa vraie personnalité. Il va mettre tous ses casques en un seul et là on va plus rien comprendre.
Ça va finir avec un truc marron, tu sais.
Après, il y a une bonne remarque de Milano
sur le
chat par rapport toujours à Lotus. C'est un bon signe aussi pour Massa parce que la situation de Lotus fait que Massa représente malgré tout un potentiel d'attirer des sponsors brésiliens et que c'est sans doute ce qui peut faire pencher la balance en sa faveur par rapport à un Hülkenberg qui malheureusement n'a pas véritablement de gros sponsors derrière lui et qui paye un peu sa nationalité allemande qui est quand même déjà pas mal représentée en Formule 1 et où les sponsors allemands ils vont aller vers des écuries allemandes ou vers un champion allemand, un peu à l'image de ce que font les sponsors italiens où ils vont plutôt vers Ferrari. La Massa, il peut quand même faire venir des sponsors brésiliens et ça peut être un atout en plus de son expérience et d'autres choses pour un duo Massa-Grosjean l'année prochaine.
Puis plus appeler Barrichello, il aura des contacts comme ça.
Oui.
Après. Le calendrier, avec cette fois l'officialisation, l'arrivée de New York, la confirmation.
Ça reste du calendrier provisoire. Hein.
Ça reste provisoire, mais bon, c'est quand même un.
A priori, c'est celui qui sera proposé au Conseil mondial d'ici la fin de la. C'est voilà. Vendredi, je crois. Vendredi
c'est
ou jeudi,
27,
le Conseil mondial.
Bah, ouais, c'est ça, c'est vendredi.
Vendredi. Donc c'est quand même plus que c'est pas officiel, mais c'est quand même plus qu'un bruit de paddock, quoi.
Ça revient à ce que je disais la dernière fois, c'est-à-dire que ce qui bloquait aujourd'hui actuellement, c'est bizarre cette phrase.
au jour d'aujourd'hui.
Ce qui bloquait au jour d'aujourd'hui, il y avait une dette apparemment par rapport à l'instance dirigeante américaine qui faisait que pour une simple procédure, il pouvait pas apparaître sur le calendrier provisoire de la FIA puisqu'ils n'existaient pas officiellement. Mmh. Là, apparemment, tout ça a été résolu et ça leur donne en tout cas une assise et le moyen de se tourner vers des investisseurs, vers des bailleurs pour leur dire, vous voyez, on a un emplacement qui est prévu pour le 1er juin, on a besoin de vous. Et là, il y a du concret. Ça garantit pas pour autant l'avenir d'un Grand Prix d'Amérique dans le New Jersey,
mais c'est
déjà une étape importante et je pense que ça leur fait du bien pour eux d'avoir cette date au calendrier provisoire. Même si c'est pas, sincèrement, c'était pas une surprise d'avoir 22 dates. Il se murmure d'ailleurs que Bernie Ecclestone aurait réussi à convaincre les équipes. Vous savez, les équipes, ils protestent, puis quand vous mettez l'argent sur la table, ils disent, d'accord. Ouais. Okay,
et du coup, on aurait un sixième moteur pour l'année prochaine?
Parce que à ce rythme-là, ça peut être une des conséquences. S'il y a 22 grands prix, il y a de fortes chances. Plus pas mal de nouveaux grands prix, donc on ne sait pas exactement quelle influence ils auront sur les moteurs et la mécanique. Ça fait quand même beaucoup d'inconnus quand on y réfléchit pour 2014. Hein. C'est nouvelles voitures, une nouvelle réglementation sportive aussi qui va arriver, quatre nouveaux grands prix en perspective, d'anciens grands prix qui changent d'emplacement dans la saison. On peut penser à la Corée qui va se disputer en début de saison. Est-ce que ce sera les mêmes conditions un peu automnales qu'on a en Corée, c'est quand même beaucoup beaucoup d'inconnus qui vont venir, je pense, pimenter la saison 2014.
Oui, faisons du teasing déjà.
2013, ouais, partout, 2013 c'est foutu. Ouais.
Oui.
Non, voilà, c'est tout pour ce tour de l'actu, messieurs.
Oui.
Bah, t'as abordé beaucoup de sujets.
N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous dire un peu ce que vous en pensez parce qu'on est en phase de brainstorming. Hein, voilà, on fait des tests. Voilà, on a testé le live. On a eu des échecs, on a eu des réussites. On teste un petit peu un débrief de l'actu du week-end. Donc voilà.
C'est nos essais pré-hivernaux.
Oui, c'est clair. Nous, on a le droit de faire des essais, nous.
Nous, on essaie déjà le moteur 2014.
Prenez ça, les écuries.
Alors, est-ce qu'il y a des drive-thru?
On a cru que c'était une
citation. Non, non, non.
Bah, je vais
commencer.
Dommage,
parce que les citations, alors, on a toujours.
Oasis demande pourquoi on n'a pas pris d'auditeurs invités. C'est pas qu'on n'a pas voulu en prendre, c'est que personne ne s'est porté
candidat. Même tout ça, enfin, de toute façon, on peut être honnête, on ne prendra pas d'auditeurs, sauf ceux qu'on connaît bien et dont on est sûr de la qualité audio. On ne prendra pas d'auditeurs lors des lives. Oui. Voilà. Donc, si on avait eu un auditeur, on n'aurait pas fait un live. Maintenant, on vous cache pas que le live nous permet aussi de gagner un petit peu de temps et d'être plus efficace dans notre travail.
Et puis finalement, d'être avec
un live pour des raisons techniques. C'est avant tout pour des raisons techniques. On ne peut pas prendre un auditeur invité, sauf si on sait, on est confiant dans son installation matérielle et dans sa qualité aussi lui-même d'expression et de.
Donc, parce que normalement, il y aura des invités dans les prochaines semaines, donc il y aura des mags, enfin des SAV d'après-course qui seront classiques. Voilà. Là, forcément, on n'avait pas d'invité, donc on fait du live. Alors, au niveau des drive-thru, alors j'en ai un. Il n'est pas terrible.
Il faut tout balancer. Avant l'émission, on nous a dit j'en ai un.
Voilà.
Et bon.
Mais il pue du cul.
Ouais, pue. Parce que moi, j'ai vu les essais libres vendredi. Alors, je suis certain, c'est pas nouveau, ça doit être comme ça depuis 2008. Mais quand j'ai vu les essais libres 1, je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, à quoi ça sert de commencer les essais libres 1 alors qu'il fait encore jour à Singapour?
Le truc, c'est qu'après, tu roules à minuit, quoi.
Mais oui, mais ils sont déjà décalés. Ils sont déjà complètement décalés. Et puis n'oublie pas que pour eux, pour les gens de la F1, eux, ils sont
ouais, mais peut-être
en mode...
Singapour veut dormir.
Je parle pas de les décaler de 2 heures. Je parle peut-être juste une demi-heure. Je veux dire, je vois pas l'utilité. Parce que bon, le fait de rouler de nuit, le fait de rouler de jour, les conditions atmosphériques sont pas exactement pareilles. Là, d'ailleurs, cette année, spécifiquement, la première demi-heure, ils ont juste fait des tours de sortie. Rien, il s'est rien passé pendant toute la première demi-heure. Je me dis, d'habitude. Est-ce que c'est utile de faire sortir les... Être sûr, une demi-heure pour rien, puisque tout le reste du week-end c'est de nuit.
Ouais, mais tu peux l'appliquer sur tous les grands prix.
Sur tous les grands prix.
Et puis en plus, il faut rajouter que c'est un circuit urbain. C'est un circuit urbain, donc de toute façon, même déjà, quoi qu'il arrive, déjà sur la plupart des grands prix, la première séance de essais libres ne sert pas à grand chose. Oui. Mais en plus, là, sur des circuits urbains où il faut nettoyer la piste et où la piste s'améliore, oui, il y a le paramètre du jour qui fait que la piste est peut-être un peu plus chaude et qu'on ne retrouve pas les conditions qu'on aura sur le week-end. Mm. Mais de toute façon, en essais libres 1 sur un circuit urbain, tu ne retrouves jamais les conditions qu'on trouve le week-end. Après, c'est ton drive-thru, je te dis.
Je vous ai prévenu.
On n'est pas du tout d'accord avec toi, mais c'est pas grave.
Non, non,
on t'aime quand même.
Réflexion que j'avais, je me disais, mais à quoi ça sert?
Mais ils vont être rallongés apparemment, les essais libres.
Oui, apparemment, il y aurait une demi-heure en plus pour les jeunes pilotes.
Ouais. Une demi-heure
les essais libres 2 aussi, non?
Non, ça sera juste les essais libres 1. Il était en discussion que les essais libres 2, que les deux séances d'essais libres fassent chacune 2 heures. Et apparemment, l'état de discussion, même si ça va encore être discuté au Conseil mondial, ça sera une première séance d'essais libres où on pourra donc aligner un jeune pilote la première demi-heure. Et après, sur l'heure et demie qui reste, soit on laissera le jeune pilote, soit on le fera remplacer. Ce qui implique aussi de changer le règlement de la F1 parce qu'il est interdit de changer un pilote en cours de séance. Donc, il faudra changer ça. Donc, il y a pas mal
de... De toute façon, le règlement sportif, ils peuvent le changer jusqu'au Conseil mondial de mars, alors ils ont le temps.
Oui. Donc voilà. Moi, j'en ai un drive-thru. C'est de la merde, mais j'en ai un.
Bah, excuse-moi, je préfère pas en avoir, mon petit père.
moi, j'ai un drive-thru aussi. Il est moins merdique, on va dire. C'est un drive-thru un peu général autour de la pénalité de Weber et d'Alonso. J'inclus dedans les gens qui commentent un peu vite. J'inclus dedans Jenson Button et j'inclus dedans Christian Horner.
Ah, putain, ça m'a fait peur.
Pourquoi? T'as cru que j'allais dire...
Non, j'ai cru que t'allais critiquer la FIA sur ce coup-là.
Non, je te la laisse. moi, je suis tout à fait en accord avec la décision de la FIA. Parce que déjà, remettons les choses dans le contexte. Qu'est-ce qu'il reprochait à Weber et qu'est-ce qu'il reprochait à Alonso? À Weber, il n'y est pas... Dans aucun cas, il reprochait à Alonso ou à Weber de s'être embarqué l'un l'autre dans leur voiture. Ce qu'il reprochait à Weber, c'est d'avoir regagné la piste sans avoir eu l'autorisation des commissaires. Je crois que c'est l'article article. J'ai pas les numéros d'article en tête, mais enfin, c'est dans un article du règlement sportif qui le. C'est un article. Je crois que c'est 30.9 alinéa B qui stipule que donc.
Il est en train de nous inviter, nous inventer un chiffre.
Oui. Un article qui stipule que personne, que les seules personnes qui sont autorisées sur la piste, donc c'est les pilotes qui sont en train de piloter, les commissaires, etc., etc., et que un pilote, pour regagner la piste, il doit demander la permission des commissaires qui sont au poste où il se trouve. Donc là, de ce qu'on a appris, Weber n'a pas eu l'autorisation des commissaires de revenir sur la piste. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce qu'il reprochait à Alonso ? Alonso, c'est sa conduite dangereuse lors de la prise de Weber. C'est pas en soi la prise de Weber qui est reprochée à Alonso. Le truc, c'est qu'Alonso, il s'est arrêté, je sais pas si vous avez vu la vidéo, je l'ai posté dans les commentaires de
Fabien. Avec un frein à main. Enfin, il aurait eu un frein à main, c'était pareil.
Oui, il s'est arrêté dans le virage 6, hein, au bout de la zone de DRS, qui est un virage à l'aveugle. Il s'est arrêté en plein milieu sur la trajectoire. Mm-hmm. Si bien que Weber, quand il a couru pour venir se mettre dans la voiture, bah, il a failli se faire écraser par une Mercedes, je crois que c'est celle de Rosberg, et il y a l'autre Mercedes qui est arrivée après, qui a dû passer sur le vibreur assez rapidement pour éviter la Ferrari qui était arrêtée. Donc voilà, moi j'ai pas l'impression d'une part que ce soit de grosses pénalités, parce que c'est des réprimandes. Manque de bol, Weber, bah, il avait déjà deux réprimandes pour deux autres stupidités qu'il avait commises depuis le début de la saison. Donc voilà, c'est,
ah, c'est ça, c'est pareil, c'est ce qu'il faut remettre aussi en contexte, c'est qu'il n'a pas pris une pénalité de 10 places pour ce qui s'est passé, il a pris une pénalité, c'est la conséquence de 3 réprimandes cumulées, et là c'est l'application stricte du règlement, 3 réprimandes de 10 places sur la grille.
Voilà, donc déjà, pénalité aux gens qui commentent un peu, pénalité, drive-thru, oui, quelque part c'est une pénalité.
oui, drive-thru, la nouvelle.
Aux gens qui commentent un peu vite, parce que beaucoup de gens commentent sans avoir vu les images, sans savoir quels points de règlement sont à disposition, et enfin, sans connaître le contexte de l'affaire. Drive-thru à Jenson Button qui, sur Twitter, a dit que c'était pas normal qu'il y ait une pénalité parce que c'était un acte parce que Alonso voulait rendre service, etc., etc. Oui, sûrement, mais il faut le faire en respectant un minimum de règles de sécurité. Alonso et Weber n'auraient jamais été pénalisés si, d'un côté, Weber avait demandé la permission de revenir sur la piste et qu'Alonso s'était arrêté de manière sécurisé, comme ça s'était passé il y a 2 ans en Allemagne. Hein. En Allemagne, quand Weber s'arrête pour prendre Alonso, il s'arrête en plein milieu d'une ligne droite, sur le côté de la piste, et Alonso est là, il n'avait pas besoin de la permission des commissaires parce qu'il venait juste de sortir de la voiture. Donc et là, il n'y avait pas eu de pénalité, hein, si je me souviens bien.
Non.
Voilà, et donc drive-thru pour Christian Horner aussi, parce que lui joue sur la corde sensible dans ses déclarations pour contester la pénalité. Oui, mais c'est des belles images, et machin et patin couffin, alors que lui en étant à l'intérieur de la F1 sait très bien que c'est pas parce que il s'est embarqué parce que Weber s'est embarqué dans la Ferrari d'Alonso qu'il a été pénalisé. Il sait très bien que c'est
et surtout ce qui est très mal placé à la fois de Weber et surtout de Christian Horner, c'est que faut quand même rappeler que Christian Horner nous dit que c'est bon pour le spectacle qu'un pilote soit sur la voiture d'un de ses petits camarades et qu'il s'expose indirectement au danger. C'est très beau pour le spectacle, c'est une belle image, en oubliant juste de nous rappeler que depuis le début de saison, il a poussé pour qu'on change les pneus Pirelli parce que c'était dangereux. Donc, à un moment donné, si on veut lutter contre le danger et qu'on veut être crédible, on y lutte tout le temps et on se tait quand il y a ce genre de situation. On dit pas, ah ouais, non, mais là, c'est bon pour le spectacle. Non, c'est source de danger. Il y a un danger. Le danger, il a été estimé par les commissaires. Tu te tais. Ou alors, tu demandes pas à ce qu'on change les pneus parce que les pneus deviennent dangereux et que ça nuit au spectacle. Cet argument de Christian Horner m'a complètement révulsé. Et sur toute la ligne, je suis d'accord. Comment est-ce qu'on peut être crédible en demandant la sécurité quand tu as un pilote qui se permet de ne pas écouter les commissaires et d'aller en piste, que tu en as un autre qui est en train qui est à côté de Raikkonen qui se met à freiner au frein à main. Moi, j'estime pour le coup que les deux pilotes auraient dû prendre une pénalité ou une grosse amende parce que c'est un comportement dangereux. Quand je lis Julien Febraud sur Facebook qui blanchit Alonso et Weber et qui limite accuse les deux Mercedes d'être arrivés trop vite, mais à un moment donné, il faut aussi rappeler qu'ils ont une vitesse limite à respecter, qu'ils arrivent trop trop vite, mais que peut-être, mais qu'il y a un pilote qui est arrêté en piste, qu'il y en a un autre qui est en plein milieu de la piste, et Hamilton l'a dit, c'est pas lui le genre à généralement à balancer sur ses camarades, surtout qu'il a plutôt de bonnes relations avec les deux, et qu'a dit, voilà, j'ai eu peur, quoi, j'ai cru que j'allais le renverser. Donc à un moment donné, il y a un danger, arrêtons de dire qu'il y a un spectacle et que c'est beau pour le spectacle, il y a un danger. Dans ce cas-là, continuons à mettre des caméramans dans la voiture, c'est bon pour le spectacle, dans la pit lane, c'est bon pour le spectacle d'avoir des caméramans, quitte même à ce qu'ils se prennent une roue dans la gueule. Voilà, on peut partir sur ce genre de principe, tout est bon à sacrifier au nom du spectacle. Cet argument-là n'est pas acceptable en Formule 1.
Mais un caméraman dans la voiture, c'est encore mieux. Alors, il faut aussi préciser que depuis, la FIA apparemment cherche en coulisses à aussi limiter le fait que les pilotes se ramènent les uns les autres dans un truc qui est dangereux aussi, mais qui n'est pour l'instant pas interdit. Ça, c'est une info autosport d'aujourd'hui, lundi.
Oui, cite tes sources, s'il te plaît.
Oui, je le fais avec plaisir. Je ne suis pas
un peu de rigueur.
Bip, je ne suis pas.
Il s'auto-censure, il gère le live comme un dieu.
Bah, c'est une insulte, hein, je veux dire.
Alors moi, j'aurai un drive-thru, c'est un drive-thru par défaut. Je véhicule un drive-thru que j'ai lu sur Internet. Je n'ai pas vu les qualifications. Et, croyez-moi, j'ai tout essayé pour voir, mais c'était pas possible.
Ah oui, c'est visiblement un autre de mes drive-thru, ça. Je peux refiler à Fab, si l'on veut.
Visiblement, pendant la Q3, alors que Vettel s'est arrêté, on reviendra sur les qualifs, mais alors que Vettel s'est arrêté et que tout le monde s'est lancé à l'assaut de la pole position, les réalisateurs nous ont foutu une caméra embarquée complète du tour de Felipe Massa. Et donc, visiblement, tout le suspense de la Q3 a été tué par cette caméra embarquée qui a duré 1 minute 50.
Oui, surtout,
voilà. Et on n'a strictement rien vu d'autre que Felipe Massa qui a terminé 6e et qu'on est passé visiblement à côté de Rosberg. Donc, moi, je n'ai pas vu les images. Peut-être que vous pourrez m'en dire plus. Mais à défaut d'un drive-thru, parce que j'ai pas vu beaucoup du week-end, je tenais à véhiculer ce drive-thru qui, encore une fois, met en exergue une réalisation de la FIA, enfin, même en course. Course, c'était pénible de voir des vues aériennes. On sait que c'est à Singapour, on sait que c'est nuit, on sait que c'est joli, mais à un moment donné, on demande à voir les voitures et on a eu quasiment 15 minutes de vue aérienne où on voyait rien. Oui, on voyait l'hôtel, on voyait un serpent de lumière en
plein milieu de la ville, hôtel,
ouais. Mais on voyait que dalle, quoi. Et ça, sincèrement, c'est pénible. On veut voir des voitures et on veut voir de l'action.
Bah, je sais pas, cette histoire en Q3, ça m'a pas choqué.
Moi, ça m'a pas interpellé non plus.
Alors, faut dire que personnellement, j'étais à l'écriture du résumé, donc j'avais les yeux focalisés en même temps sur le live timing. Et donc là, même si t'as pas les images, t'as l'intensité parce que tu vois les secteurs défiler les uns après les autres. Donc voilà, c'est vrai que c'était très serré. Mais j'ai pas eu ce sentiment parce que. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai pas de souvenir qu'on voyait un tour de quelqu'un en fait.
Mais parce que, il me semble que la procédure dans ce cas-là, c'est que la focalisation des caméras, enfin, le réalisateur se braque sur le pilote qui est le premier en piste, le premier à décrocher son chronomètre, et que, et donc, la raison pour laquelle, sûrement, Massa devait être premier en piste, c'est donc celui que les caméras suivaient, quoi.
Alors, il y a Toto qui nous dit que c'était parce que c'était son dernier tour de qualification à Singapour. Là, c'est pareil.
Chez Ferrari. Ah, oui. Il précise à la fin de sa phrase, chez Ferrari. Non, parce que le fait de mettre chez Ferrari ou pas, ça change un peu le sens de la phrase.
Mais c'est comme Weber. On a encore eu le droit ce week-end à Weber. C'est son dernier week-end à Singapour. Ils vont nous faire jusqu'à la fin de l'année.
Enfin, là, Weber, c'était particulièrement un week-end de mec en pré-retraite, hein, quand même. Ah, parce que le gars.
Lui-même l'a reconnu. Hein. Il a dit qu'il manquait aujourd'hui, qu'il commençait à ne plus avoir autant de motivation.
Ouais, non, mais pour revenir sur ce que disait Gus Gus tout à l'heure par rapport à son drive-thru, c'est typiquement l'attitude d'un mec quand on n'a plus rien à faire. Qui outrepasse les règles minimales de sécurité.
C'est vrai que s'il le fait dans les Inaudières, ça va lui faire drôle.
J'avoue que moi, j'ai pas de drive-thru parce que je sais très bien que ça sera abordé. Bah oui, non, mais enfin, je veux dire, mais en plus, mais quelle idée! En plus, le pire, c'est que personne s'arrête de lui-même pour venir chercher Weber. C'est Weber qui va près de la piste pour trouver quelqu'un qui va s'arrêter.
Oui, enfin, c'est
vraiment scandaleux, quoi. Enfin,
on a parlé de taxi parce qu'il
n'y a pas eu de pénalité à proprement parler pour cette manœuvre. Oui, bah voilà, c'est lui qui appelle. En plus, c'est en fait ralentir deux. Imagine les deux s'arrêtent. La Mercedes arrive à ce moment-là, elle peut pas passer la Mercedes. Je comprends pas l'inconséquence de certains commentateurs parce que à la limite de Weber qui est encore dans le feu de l'action, on peut lui trouver des excuses parce qu'il est dans le feu de l'action, encore que. Mais que certains commentateurs disent c'est magnifique, machin, je comprends pas, c'était pas si risqué que ça. Mais si, mais c'est super risqué. Mais à combien de centimètres passe la Mercedes? Voilà, enfin c'est
Mais c'est parce qu'ils avaient pas
scandaleux et ça a été.
C'est aussi parce que sur le coup,
Weber m'agace de plus en plus.
C'est aussi parce que sur le coup, ils avaient pas l'image de Weber qui prend le taxi entre guillemets.
D'où on dirait que beaucoup de gens ont jugé sans avoir l'image.
La première fois qu'il apparaît, il est sur la Ferrari. Bon, on se doute que voilà, Alonso s'est arrêté, mais on n'a pas vu les images de Weber justement passant très près quand même de la Mercedes.
Oui, non, mais d'accord, mais enfin, c'est toujours pareil, les gens ont qu'à lire ce qui est précisément indiqué sur les articles.
Mais le problème, c'est que les gens lisent pas que Fan F1, c'est ça le problème aussi. Parce que j'ai encore lu aujourd'hui sur un site dont le responsable est un ancien commentateur de TF1 qui disait oui, Weber a été pénalisé Alonso a été pénalisé parce qu'il a ramené Weber au stand. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, donc à partir du moment où sur certains sites qui sont supposés sérieux, tu lis ce genre de conneries, évidemment que tout le monde n'est pas informé correctement.
Messieurs, je vous propose de passer à la course et de commencer, comme d'habitude, par les qualifs que Dino donc n'a pas vu, mais c'est pas grave.
et que j'ai failli pas voir non plus, parce que c'est une espèce de deuxième drive-thru. Canal+, ça ne marchait pas ni sur PC, ni sur Xbox samedi à 14h, à 15h. Et ça marchait sur ADSL, donc un moyen de diffusion qui n'est pas de leur ressort, hein, c'est pas eux qui distribuent les images à ce moment-là.
Non.
Mais ça ne marchait pas. Alors je sais qu'en ce moment ils lançaient leur nouvelle chaîne Canal+ série, donc ça peut créer des problèmes, mais quand même, c'était vraiment pas sérieux, quoi.
Replay qui arrive 3 jours après, quoi. Enfin, même là, sincèrement, moi j'ai vraiment essayé de récupérer mes séances pour, voilà, ne serait-ce que pour participer à une émission en ayant vu les choses. Mais à un moment donné, c'est juste pas possible, quoi. Quand t'as les qualifications, les essais libres qui arrivent le dimanche soir, moi j'avoue sincèrement, après la course, j'ai pas envie de me dire, tiens, comment le mec il s'est qualifié pour finir 19ème. Oui. Explique-moi, j'ai bien fait, bro.
Après, sur le player en direct, Dino, si t'as moins de 5 ou 6 heures de décalage, si tu veux regarder 5 ou 6 heures après, tu peux revenir en arrière.
Oui.
Et là, j'avais plus de 6 heures.
Oui. Donc, je reprends. À noter que Charles Pic et Jules Bianchi, encore une fois, ont été devant leurs coéquipiers cette semaine en qualif. Nos deux guignols de la semaine sont Pastor Maldonado, 18e, et Paul Di Resta, à la 17e place.
Ça commence à devenir une habitude pour Di Resta, ça.
Ouais, ça... Mais ils ont une mauvaise passe, quand même, chez Force India, depuis quelques...
Bah, depuis les nouveaux pneus.
Depuis les pneus.
Ouais.
C'est comme Alonso qui a déclaré que pour lui, le tournant du championnat, ça avait été le changement de pneus qui a faussé le championnat, quoi.
Oui. En Q2, Valtteri Bottas a fini 16e, Adrian Sutil, encore Force India, 15e place, Sergio Perez a été 14e, Kimi Raikkonen, ça a été le fait marquant de la Q2, donc n'a fait que la 13e place, derrière Jean-Éric Vergne et Nico Hülkenberg, 11e.
Raikkonen, il a fait le dos rond.
Oh.
Non, j'étais plat.
Oh, superbe.
Même si je trouve que il s'est pas trop justifié de ça, enfin il n'a pas trop pris ça comme excuse. Il aurait pu le faire beaucoup plus et dire oui, je suis malade, j'ai le dos pété et tout ça.
D'ailleurs, on ne sait toujours pas l'origine. On a parlé d'un accident, des séquelles d'un accident lors de son passage en rallye, les séquelles d'un accident qui remonterait à 2001 lors de tests avec McLaren.
Non, avec Sauber.
Avec Sauber à Manicourt. On a parlé aussi de, en essai libre 1, il aurait roulé sur une bosse et ça aurait réveillé une douleur au dos. On a parlé évidemment d'une chute dans un escalier en ayant trop picolé. On sait qu'un mec de Lotus a dit qu'il y avait eu un accident.
Il s'était fait mal à Monza en 2007.
Le poids de son contrat, de sa nouvelle richesse, ce Ferrari qui lui courbe le dos, on ne sait pas.
Il s'était fait mal à Monza en 2007 aussi, en essai libre à l'époque.
Le gros carton là,
oui.
Ascari.
Quand il freine avant Ascari et que ça part, elle part direct à droite, il se prend le mur.
Et il pourrait se faire opérer à la fin de la saison, d'après les rumeurs dans le paddock et relayées par des sites italiens. Alors c'est un nerf qui serait pincé, donc il faudrait une petite intervention chirurgicale avec une convalescence qui serait plutôt courte, donc pas de deal breaker avec Ferrari, mais il pourrait subir une intervention chirurgicale pour se débarrasser de ça définitivement.
Ouais, parce que ça avait pas l'air d'être d'une surprise, parce qu'il avait dit oui, ça m'est déjà arrivé, et il disait ça m'arrivera encore à l'avenir. Après, ouais, s'il peut se soigner.
D'après Thibault Larus, c'est deux disques qui seraient coincés, donc les infos se recoupent pas visiblement.
voilà, il
c'est
a
Hamilton que les disques sont coincés en général. Tu me diras, quand on se souvient du Grand Prix de Belgique, les disques chez Raikkonen, c'est jamais dans les sites.
Non, ça explose chez Raikkonen, les disques.
Quelque chose d'autre à dire sur la Q2
Qu'on sentait
ben, beau tour
déjà,
de Gutiérrez, hein.
Qu'on voyait déjà gros comme une maison le top 5. Oui, aussi. Oui, ben lui, c'est quand même fantastique. On sait, ah des bah fois, oui. Il nous sort des trucs. Don de ses os, du diable Vauvert. Non, mais c'est une très belle performance de sa part. Il a profité de la piste qui s'était bien améliorée en toute fin de Q2. Parce que je crois que c'est un des vraiment des derniers temps. Donc voilà, puis il avait sans doute bien fait monter, enfin bien fait travailler ses pneus super tendres, mais effectivement c'est une belle cave de sa part.
Et donc en Q3, Gutiérrez qui n'a pas fait de temps, hein, tout simplement en Q3.
Il était fatigué après.
Attends, c'est tellement étonnant de sa part, waouh. Ricciardo a fait la 9e place, Button 8e, Alonso 7e, derrière Massa, encore une fois, hein. Lewis Hamilton 5e, Mark Webber 4, Romain Grosjean 3, Nico Rosberg 2 et Vettel, la fameuse pole, où tout le monde a dit qu'il avait quand même joué avec le feu à ne faire qu'un seul tour et à attendre. Au final, Rosberg ne finit qu'à 91 millième. Hein.
Oui, mais il a joué Vettel et il a gagné parce que. Enfin, c'est quand même. Faut quand même se dire qu'effectivement, quand on sait la façon dont la piste s'est améliorée tout au long de la qualif, c'était quand même un gros pari. Un pari avec des risques mesurés quand même, hein, parce qu'on parle de Vettel, on parle de Red Bull. C'est quand même un gros pari de choisir volontairement de ne pas pouvoir répliquer à des améliorations. D'autant que Rosberg, ça joue vraiment rien, comme tu le dis, un dixième, enfin c'est vraiment pas grand chose. Quoi, tout aurait pu jouer quoi dessus. Mais après,
le pari ouais. C'était plus par rapport à Webber qui était pris, parce que Webber a la même voiture, il a le même avion de chasse. Je veux dire, s'il y en avait un qui pouvait faire la pole, ça aurait quand même été Webber quoi.
Il y a peut-être des certitudes
d'ailleurs,
sur Webber.
Ouais, c'est ça. C'est surtout le truc, c'est que c'est surtout se dire Webber, bon bah il est pas au top
soit il n'a pas de matériel, soit il se dit il est démotivé et ouais. il pourra pas venir me chercher quoi.
Enfin, il y avait quand même deux éléments concrets sur le week-end de Singapour, c'est que en super tendre, il était toujours dominé par Vettel. Et dans le troisième secteur, il se prenait toujours une pile aussi. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Hein. Quand tu regardes le tour de Weber, il est en de mémoire, il améliore, il est devant Vettel sur les deux premiers intermédiaires, il perd tout dans le troisième, au point de finir dans quatrième. Enfin voilà, donc il y avait quand même deux trois certitudes de ce côté-là. Mais effectivement, après, c'était un pari vis-à-vis de Weber. Mais bon, j'arrête avec Weber. Je vais devenir méchant.
Très bien. C'était la 41e pole pour Sébastien Vettel, la 51e pour Red Bull, la 207e pour le moteur Renault.
Ferrari, on est à combien ?
Pour le moteur ou le constructeur Ferrari ?
Le moteur.
Ça doit pas être loin, là.
Ouais, parce que c'était
proche. En pole, hein, le nombre de poles.
Ferrari, ça doit être 209, non ?
Ferrari 208, Renault 207.
On va en Corée. Corée-Japon, c'est terminé. Allez, hop.
À moins que Mercedes...
Non, bah, il va bien au moins faire deux pôles d'ici la fin de saison. Messieurs, on va passer au top 10.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Alors, sans Fab, hein, qui est déconnecté et qui, on l'espère, reviendra le plus vite.
Non, Fab est mort, faut dire, Fab est mort. On peut le dire. Il a été tué par...
Le colonel Moutarde dans la bibliothèque, avec le chandelier.
Et Dino, est-ce que tu peux nous citer, comme chaque semaine, les pilotes qui ne feront pas partie du top 10 cette semaine ?
Ah oui, les pilotes qui sont restés dans l'ombre à Singapour. Moi aussi, je sais faire des titres originaux, messieurs les journalistes. Alors attention, en 22e position, nous avons Daniel Ricciardo qui a abandonné sur un accident avec 15 points dans le classement des amateurs de crash, visiblement. Il est ex-aequo au nombre de points avec Bottas, mais Bottas a terminé devant en course, donc il est mieux classé. Il est 21e. Bravo, Valtteri. En 20e position, nous avons Max Chilton avec 20 points. En 19e position, Guido van der Garde, 21 points. 18e, Charles Pic, 28 points. 17e, Pastor Maldonado, 35 points. 16e, et on ne sait pas pourquoi, Jules Bianchi, 80 points. 15e, Adrien Sutil, 102 42 points, 14e Paul Di Resta, 143 points, un petit point derrière Esteban Gutiérrez, 140 points, qui est 13e. En 12e position, nous avons Jean-Éric Vergne, 179 points. Et cette semaine, Mister Eleven.
On se demande bien pourquoi, d'ailleurs.
Oui, globalement, les 4 Français, enfin, les 3 Français, on se demande pourquoi. Et donc, cette semaine, Mister Eleven, il est mexicain, il conduit une McLaren. Oh, attention, le suspense est à son comble. C'est Sergio Pérez avec 191 points.
À noter que le vainqueur a marqué 2220 points.
Alors, on vous donne une petite explication pour se fourrir. Il se trouve que visiblement Fab a retrouvé sa connexion et qu'il nous demande de le réintroduire. Donc, nous allons réintroduire Fab. Si quelqu'un peut réintroduire Fab, ce serait bien aimable.
Bon, je m'y colle puisque personne ne veut.
Non, attends, je le fais.
C'est bon. Voilà. Je vais rester les mains propres.
Non, non, bah non. Visiblement, Fab ne se laisse pas faire.
Oui. Ah, il n'a pas accepté la porte qu'on lui avait ouverte. Bon.
Eh bien, fermons la clé et continuons.
Oui, continuons. Alors, Gus Gus, tu as cité deux pilotes en dehors du top 10. Tu as donné un point à Gutiérrez et deux points à Pérez. Tu aimes les pilotes mexicains?
Oui, j'aime les tapas. Non, mais j'ai mis un point à Gutiérrez pour la qualif parce que bah voilà, c'est une belle qualif. Il était devant Hülkenberg. Je veux dire, c'est assez rare pour que ce soit souligné. Et il était devant Hülkenberg et en plus en Q3, donc raison de plus. Quant à Pérez, ben vu où j'ai mis Button, ils ont fait deux courses quasiment identiques, donc ça me semblait logique de les associer, quoi. Donc j'ai mis Pérez 9e parce que j'ai mis Button 8e, quoi. Ils ont fait deux courses vraiment copie carbone.
D'accord. Et donc, à la 10e place, il a marqué 461 points, c'est Nico Hülkenberg.
Bah, c'est une course solide. C'est une course solide. C'est pas une course transcendante, mais en même temps, avec une Sauber et une stratégie, c'est les seuls Sauber à avoir tenté avec Alonso et les McLaren, et Raikkonen évidemment, à avoir tenté d'aller jusqu'au bout avec les médiums après le safety car. Il l'a mené à bien sans trop de problèmes, quoi, avec la voiture qu'il avait, et 9e, c'est plutôt un bon résultat, quoi. Faire marquer des points avec cette Sauber là, c'est une bonne course.
À noter quand même, parce que moi je l'ai mis dans mon classement, Gutiérrez aussi, qui sur la Sauber a fait un assez bon week-end. Il était parti pour être dans les points aussi. Il a fini au final, je crois, 12e. Mais voilà, c'est aussi le signe. Et moi je pense sincèrement que Sauber continue de développer sa voiture et de la faire avancer pour un peu attirer des sponsors et améliorer sa situation financière. Mais voilà, c'est une belle progression et c'est assez encourageant pour la suite de la saison quand même de revoir Sauber un peu plus dans le top 10 et mine de rien marquer des points et faire son trou et c'est on sait que c'est important, quoi.
Je pense pas qu'en termes de rythme ils y soient vraiment là. Je crois qu'ils ont plutôt misé sur la dégradation des pneus, quoi. C'est la qualité qu'avait déjà la Sauber ces deux dernières années et qu'elle a sûrement gardé cette année, mais qu'on a moins vu parce qu'elle était moins là en termes de vitesse, mais que du coup du fait du safety car, ben ils ont pu remonter et appliquer une stratégie décalée pour être là. Mais je pense que en termes de rythme à pneus égal, remarque, ils étaient 10 et 11 sur la grille après.
On peut pas non plus écarter le fait que peut-être que eux aussi ont bénéficié du changement de pneumatique en cours de saison et que voilà, aujourd'hui ils sont un peu aidés par ces changements là et que ça les remet pas aux avant-postes, parce qu'ils sont pas clairement pas à la position qu'ils étaient l'an dernier. Ça reste une déception, mais c'est déjà, ça fait un peu meilleure figure que le début de saison. Et puis Hülkenberg, mine de rien, depuis quelques courses, il est devant les Force India. Oui. Et ça doit sans doute lui faire un peu moins regretter son choix.
Oui, peut-être qu'il est un peu plus motivé et que comme il sent qu'il y a la carotte Lotus, voilà, peut-être qu'il se donne un peu plus les moyens de faire des résultats. Que quand c'est sûr, quand t'es qualifié 16, 17, tu passes même pas en Q2, c'est plus dur de délivrer. C'est plus dur.
À la 9e place, il a marqué 659 points, c'est Felipe Massa.
Alors, j'ai cherché à le mettre dans mon top 10, mais je suis pas arrivé. C'est pareil avec Weber, hein, je veux pas spoiler, mais j'ai mis ni Weber ni Massa, parce que les performances de leurs coéquipiers sont tellement sans commune mesure que j'ai pas. Pour moi, il y avait au moins 10 pilotes qui avaient fait de meilleures courses que Massa. Pourtant, la course de Massa, mm-hmm. elle est pas dégueulasse, quoi. Mais le problème, c'est qu'Alonso, lui, arrive à faire. Après Massa, on lui met des super tendres après le safety car, mais il arrive pas à les emmener très très loin, quoi.
Puis surtout, quel intérêt à lui mettre des super tendres quand tu sais que c'est lui qui bouffe le
qui
plus
bouffe
ses
le plus
pneus,
des pneus, oui, c'est ça.
À la limite, tu le mets en pneus, c'était les médiums ce week-end, tu le mets en pneus médium, tu vois s'il peut aller au bout, s'il va pas au bout, après tu le laisses finir en super tendre, mais tu ne mets pas l'avant-dernier relais en super tendre, enfin, Moi, j'ai mis 10e, Massa, et moi, j'avoue que Massa, j'ai aussi regardé un peu sa course au prisme de ce qu'il avait déclaré, voilà, qu'il allait, se battre tout seul et qu'il allait nous montrer de quoi il chauffait.
Il s'est battu tout seul, oui.
Voilà, on a pas vu grand chose. Alors après, il faut rendre aussi à Massa ce qui lui appartient. Il fait un très bon départ. Là où Alonso connaît un départ sans problème à l'extérieur, lui, il se met à l'intérieur parce que c'est son seul axe, et il se retrouve enfermé au départ. Donc, bah voilà. Il peut difficilement progresser aussi bien qu'Alonso. Et à Singapour, où on a clairement vu ce week-end, et d'ailleurs Massa s'en est plaint, qu'il était impossible de dépasser, notamment avec les marbles, c'est ce dont s'est plaint Massa, c'est la quantité de marbles qui rendait les dépassements très difficiles. Malheureusement, Massa, dès le départ, il est plus ou moins condamné à faire une course pour la sixième place. Voilà, lui, il en sort très satisfait. J'attends de voir, on verra sur d'autres grands prix. En Corée, il peut être bon, mais pour moi, voilà, moi, il m'a pas du tout enthousiasmé sur ce grand prix.
Dans ce cas, je vous propose d'aborder le 8e, qui n'a pas fini la course. Il lui a manqué un tour. C'est Mark Webber qui a marqué 700 points.
Pour moi, c'est pareil que Massa. Vu la performance de Vettel ce week-end, je me voyais mal mettre Webber, alors que il y a plein de gens avec une voiture inférieure qui ont fait des courses aussi bien, voire bien meilleures.
Il aurait quand même pu jouer le podium, hein, s'il n'avait pas eu son souci, parce qu'il remontait quand même assez vite sur Raikkonen.
Oui, d'accord, mais avec la Red Bull, c'est vraiment le minimum, quoi. Vu comment Vettel a poussé la Red Bull dans ses retranchements, il est 2 secondes, 3 secondes au tour plus rapide que les autres, on pouvait s'attendre que Webber en fasse je sais pas, deuxième, c'était l'objectif pour Webber, quoi. Et il aurait pas battu Alonso.
Non, oui, je pense pas non plus. Dino sur Webber ?
Ben moi, j'ai pas classé. C'est un peu pareil. Après, je pense que la domination de Vettel, il faut aussi la remettre en perspective et que clairement, la course de Webber et de Vettel n'ont strictement rien de comparable.
Ah non.
Après, c'est vrai que même déjà en qualif, quoi, il reste quand même derrière alors qu'il fait une tentative de plus, apparemment. Voilà, c'est on sent clairement un pilote démotivé et là, en ce moment, il lui arrive merde sur merde. Donc voilà.
Bah dans ce cas-là, on va passer à la place de devant, la 7e.
On va te le torcher, ce top 10.
Là, franchement, vu tout ce que vous avez à dire, il a marqué 700.
Ouais, puis ça n'est pas prêt de revenir, donc du coup.
Oui. Il a marqué 774 points. C'est le pilote McLaren, Jenson Button.
On y a presque cru au podium. Moi, j'ai mis combien déjà? Je l'ai mis 4e, justement parce qu'il aurait au moins mérité de finir 4e. C'est vrai que la fin de course, c'est quand même très cruel pour lui.
Ah bah, c'est effondré, la McLaren.
Mais voilà, après, c'est une course opportuniste au même titre que les autres, peut-être un peu moins flamboyante et il n'y a pas eu. Ce qui a pêché, moi, dans mon impression de la course, c'est que contrairement à Raikkonen, par exemple, ou à un Alonso qui a pour lui le départ, Raikkonen qui a pour lui la fin de course et quelques dépassements, Button, on a plus l'impression qu'il a subi les événements et qu'il était là au bon moment, mais il n'avait pas de quoi se battre, quoi. Donc il a un peu subi, il a subi la loi de Raikkonen, il a subi la loi des Mercedes, voilà, mais il est toujours devant son coéquipier Perez, voilà, il continue de faire son bonhomme de chemin, il fait le dos rond et voilà, moi je... C'est un pilote que j'aime beaucoup et je regrette un peu que cette année il soit un peu cantonné avec une monoplace qui fonctionne pas et qui
soit
vraiment
dans
l'ombre, quoi. C'est parce que c'est vraiment un pilote qui est capable de faire de très belles choses et là ce week-end, et puis en plus il a cette vraie mentalité de champion, quoi. Il y croyait à Monza, là il est encore à y croire et voilà, il lâche rien et moi sincèrement j'aime ça, moi. Donc
pareil, c'est une course à l'image de ce que peut faire sa voiture, quoi. Bonne en conservation des pneus, mais à part ça, elle est pas dans le rythme, quoi.
à la sixième place, un autre pilote qui n'a pas fini la course, mais lui, il a fini beaucoup plus tôt. Il a marqué 784 points, donc ça ne s'est pas joué à grand-chose avec Jenson Button. C'est Romain Grosjean.
Vous m'avez manqué.
Oh, on t'a cru mort.
Mais moi aussi.
On commençait à déboucher le champagne.
T'as fait ton éloge funèbre.
C'est gentil, je la réécouterai.
C'est un moment émouvant.
Ah oui.
Ouais.
C'était pas une histoire de porte et de serrure.
Mais il y avait un truc dans le genre.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on s'est marré.
Vous avez parlé de quoi?
D'Hülkenberg, de Massa, de Weber et de Button. Oui, on a parlé de tout ça. Tu imagines le tas de choses qu'ils avaient à dire.
On peut gagner du temps. remonte la grille.
Ce qu'on va faire, c'est voilà, c'est que tu vas faire le quand on va parler du prochain pilote, tu parleras du Hülkenberg. Voilà.
Alors.
Donc là, on en était à Grosjean.
Oh non, parce que j'ai déjà du retard. Alors là, ça risque d'être affreux.
Comme ta qualité sonore.
comment dire voilà, exactement.
Oui, Fab est en direct de Singapour.
Je coule dans cette émission. C'est terrible.
Ouais. Donc, Fab, toi qui es en direct de Singapour, peux-tu nous dire s'il fait jour ou nuit, s'il te plaît?
La guigne, Fab. Fab, il a le syndrome Grosjean sur cet enregistrement.
Oui, j'ai des problèmes inconnus. J'ai des problèmes qui ne sont jamais arrivés avant. Non, mais pauvre Grosjean, effectivement, il a un problème d'un autre âge, finalement, parce que j'avais jamais entendu parler de ce problème, personnellement. C'est la première fois que je le voyais. Ce qui est bien dommage, parce qu'il était vraiment dans une... Il s'était bien remis au niveau stratégique, parce que le choix de passer les super tendres avait été un échec cuisant, n'arrivant pas à prendre l'avantage sur les pilotes qui étaient autour de lui en médium. Donc le safety car l'avait bien remis dans le jeu. Il aurait sans doute terminé sur le podium, puisqu'il était sur la même... stratégique Alonso. A priori, la deuxième place se serait jouée entre les deux. Donc, c'est vrai que c'est une course vraiment. Puis, son dépit quand on lui apprend que sa course est ruinée. Quoi. Je pense que ça résume bien sa situation. C'est-à-dire,
en plus, ils se sont pris une réprimande ou une amende à cause de ça, parce que le gars de Renault, il avait pas de casque.
Ouais, exactement. Donc très très malchanceux sur cette course où il pouvait briller, peut-être se placer dans une situation très favorable, surtout après ses déclarations comme quoi il avait l'étoffe d'un numéro 1. Et malheureusement, non seulement il abandonne la course sur un problème mécanique, mais en plus Raikkonen termine troisième. Donc c'est vraiment dommage quoi. C'était la course des occasions quoi.
Mais c'est un peu terrible parce qu'on a l'impression que quand même chaque Grand Prix cette année où Grosjean domine Raikkonen, à la fin Grosjean finit marron et Raikkonen tire les lauriers. Ouais. Pas du travail de Grosjean, mais c'est à la fin celui qui a fait le meilleur résultat, c'est Raikkonen. Et c'est encore un peu le cas ce week-end. Grosjean fait un week-end où il est tout le temps devant, où il magnifie un peu sa voiture, là où Raikkonen souffre du dos et voilà, il y a des raisons qui expliquent sa contre-performance. Et en course, bam, voilà, c'est la guigne pour Grosjean et Raikkonen, le boulevard vers le podium. Après, sur la course de Grosjean, il prend pas un bel envol.
Il n'y a
rien de transcendant. Il peut pas non plus faire grand chose d'autre. On l'a senti pressant sur Weber. Maintenant, c'était difficile de dépasser. On l'a vu. Enfin, je serais vraiment curieux de connaître les statistiques de dépassement sur ce week-end. Je suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup. Voilà.
Ils sont
une course d'attente, des mauvais choix stratégiques. Et puis voilà, ce problème d'air dans le moteur, dans le circuit moteur. C'est la première fois que je vois un ravitaillement au stand où le mec il est obligé de prendre une pompe à vélo pour remonter le moteur. Écoute Romain, tu t'arrêteras dans chaque virage, il y aura un mec de chez Renault qui viendra pour te remettre un petit peu d'air dans le moteur. Ça fait partie de... T'as l'impression que la panne, elle a été inventée pour
inventée
le faire chier.
Exprès, ouais.
Tu te dis, c'est pas possible. Le dieu de la F1, il s'est dit, tiens, Grosjean, qu'est-ce que je vais lui faire aujourd'hui?
Non, mais c'est les frères Robertson sur le muret des stands qui étaient là. Mais là, il n'y a pas un problème sur le moteur de Grosjean, là?
Mais tu peux peut-être nous expliquer, toi, Gus, toi qui connais un petit peu mieux que nous en technique, c'est quoi concrètement ce problème qu'il a rencontré?
Je pourrais, mais je ne vais pas le faire, parce que je ne sais pas. Tout simplement, je ne sais pas.
Une arnaque?
Non, j'ai une petite idée de ce que c'est, mais je suis pas sûr, donc pour ne pas induire les gens en erreur...
Genre, tu serais le premier dans cette émission à raconter une connerie?
Non, mais...
Oui, mais il ne veut pas être le dernier.
Voilà. J'ai pas de source à ce que j'ai à dire. Donc.
Ah, Finnegan, il demande à expliquer la fonction de l'air dans le moteur. Ça, c'est peut-être plus accessible.
Bah, c'est... Non, mais c'est ça, justement. l'air dans un moteur, c'est, la... c'est le... ce qu'on appelle le comburant. C'est ce qui se mélange au carburant pour créer l'explosion. Après, Renault, ils ont des soupapes pneumatiques. Donc, c'est des soupapes qui sont actionnées par de l'air pressurisé. Alors, est-ce que c'est ça le problème? Justement, je ne sais pas. Il faut que je fasse des recherches. Il faut que Renault Sport veuille bien nous donner des infos sur le sujet. Après, voilà.
Allez, on va passer à la cinquième place. C'est un pilote Mercedes. Il a marqué 847 points. D'après vous, c'est lequel?
Hamilton.
Hamilton, a priori.
Oui, c'est Lewis Hamilton.
Qui a lui-même reconnu qu'il n'avait pas été bon sur ce week-end.
C'est parce qu'Aligi, elle a dit.
Non, arrêtons. Arrêtons avec cet
ne
épisode.
Ne remuons pas les
c'est
vieux démons.
Envers Hamilton.
il fait un week-end où par rapport à Rosberg, pour une fois c'est Rosberg qui a l'ascendant. C'est pas un mauvais week-end, hein, il est pas non plus à dire il finit la course à 2 secondes derrière Rosberg, c'est pas honteux quoi. Mais pour lui ça suffit pas. Enfin en tout cas lui ne s'en contente pas.
Oui.
On va en profiter pour transmettre le au revoir de Fab qui renonce. Voilà, il est rentré 2 fois au stand, il a tout essayé, mais il renonce.
Il a plus d'air dans le moteur.
Vous le retrouverez dans un prochain mag, je pense.
Peut-être, oui. Peut-être.
Toi, Dino, sur Hamilton?
Je peux difficilement juger son week-end dans la mesure où j'ai pas vu le restant sur la course.
Sur la course, oui.
Sur la course, je vois pas grand-chose. Après, c'est vrai qu'ils partent sur une stratégie qui aurait pu être intéressante. Au moment de la safety car, ils restent en piste et ils vont changer de plus tard. Ce qui fait qu'ils sont obligés de repasser au stand pendant que les autres restent en piste. C'est ça leur coûte cher. Ils animent un peu, je mets Rosberg et Hamilton dans le même panier, ils animent un peu la fin de course, un peu à l'image de ce qui avait été le cas en Italie, mais c'était vraiment très difficile de se mettre en valeur. Voilà, il y a pas véritablement de fait marquant dont je me souvienne de la course d'Hamilton ce week-end, quoi.
Il y avait beaucoup de raisons pour que cette stratégie échoue quand même, hein. Le trafic, le fait que les autres derrière ont leur arrêt au stand un peu gratuit puisqu'ils reviennent parce que c'est la safety car.
C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, je pense qu'ils ont peut-être voulu parier sur une deuxième safety car. Je vois pas, parce que quand tu vois un mec comme Alonso rentrer au stand, tu te dis si Alonso rentre au stand, il y a quand même des chances derrière pour qu'il reste. Donc c'est que tu anticipes peut-être une deuxième safety car en disant lorsqu'il y aura une deuxième safety car, on pourra peut-être faire la différence. Lui rentrera peut-être pas. Ou...
Est-ce qu'ils se sont dit on voit souvent c'est un cas de figure comme ça en NASCAR, c'est que le premier ne rentre pas, donc toutes les autres derrière se calquent leur stratégie sur les autres. Est-ce qu'ils se sont pas dit, parce que ceux qui se sont pas arrêtés, c'était les 4 premiers de la course à ce moment-là.
Ouais, c'était un peu ça, ouais.
Est-ce qu'ils ont pas pensé que derrière ça allait faire la même chose, c'est-à-dire à partir d'Alonso, ce qui était 5e et qui rentre au centre, finalement tout le monde s'est calqué sur Alonso et pas sur les autres. Est-ce qu'ils se sont pas dit personne va s'arrêter et ce safety car n'aura aucune incidence sur le reste de la course?
Oui. Mais en plus, à ce moment-là, maintenant, ils sont derrière Alonso. Donc, je dis rien, je me tais. je replace le Grand Prix dans ma tête au moment
Parce que j'ai le classement avant la safety car. Oui, Alonso est 3e.
Il y a Rosberg, par contre, qui est devant.
Oui, Rosberg est devant. Ouais, ce qu'on peut leur reprocher, à la limite, c'est pas d'avoir mis les réseaux dans le même panier, quoi.
Voilà, c'est ça le reproche qu'on pourrait leur faire. L'erreur stratégique, c'est à la limite Rosberg qui reste en piste, lui se calque sur le premier. Après, c'est à Hamilton, on aurait peut-être dû le calquer sur Alonso. Parce que même avec des pneus plus frais, c'est difficile de voir ce qu'ils pouvaient espérer. Si ce n'est, moi je ne vois vraiment que la deuxième safety car ou une fin de course un peu plus agitée, parce que maintenant la safety car arrive assez tôt. On sait qu'à Singapour la course est très éprouvante, donc ils se sont peut-être dit sur la fin de course il y aura peut-être d'autres crashs, il y aura peut-être d'autres safety cars, donc jouer un peu ça, essayer d'avoir un coup de penser un coup après. Sauf que c'est toujours très risqué, quoi. Il faut toujours rester sur le coup qu'on a, et c'est ce qu'a fait Alonso et c'est ce qu'ont fait les autres.
Puis bon, il faut se dire que les décisions là se prennent en l'espace d'une minute. Le safety car sort, il faut tout de suite prendre une décision. Est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on rentre pas, quoi.
Non, puis Alonso, il a un feeling à Singapour avec la safety car.
il a des signaux.
Je vous propose de passer à la 4e place avec l'homme qui y a cru. 2 virages. Il a été devant deux virages, et après...
Techniquement, c'est un virage.
Oui, c'est vrai.
Sur le deuxième, il était au-delà des quatre lignes, donc je pense que la FIA sera intervenue.
Il a marqué 1162 points, c'est Nico Rosberg.
Mais en fait, c'est la résistance est belle face à Vettel, mais le fait qu'il doive rendre sa place parce qu'il part large dans le deuxième virage, dans la petite courbe qui est entre le premier et le troisième virage, c'est qu'il freine trop tard, quoi. Donc, certes, il est devant au premier virage, mais le fait qu'il soit devant au premier virage explique en partie pourquoi il va être trop large derrière et explique aussi la prudence de Vettel qui finalement l'a peut-être laissé s'embarquer trop loin en disant je vais décroiser après pour voir leur passer devant au prochain virage. C'est bien tenté. Après, ça peut passer. Il faut être culotté. Il a essayé au départ parce qu'il savait très bien qu'il n'y avait que ça à faire face à Vettel. Face à la qualif, il n'y avait que ça à faire. Tu restais devant Vettel après le premier virage, ça complique un peu plus la course de Vettel parce qu'il faut qu'il te dépasse. Et là, pour le coup, c'est pas forcément.
On a vu que c'était compliqué.
La même soupe.
Là, c'était compliqué, mais c'était pas infaisable parce que en fin de course, on a vu beaucoup de pilotes, les Mercedes, justement, remonter des voitures moins lentes. Vu la voiture qu'il avait entre les mains et le talent qu'il a démontré ce week-end, il aurait fini de toute façon par dépasser. Je pense que c'était inéluctable, même si Rosberg passait devant. Sinon, la course de Rosberg, c'est la même qu'Hamilton au final.
Une place devant.
Une place devant, deux secondes devant en arrivée. Quoi. Une course à la Rosberg, finalement, parce qu'on les a pas tant vu que ça, les Mercedes. Quoi. Même si elles ont remonté sur la fin sur des voitures moins rapides, on n'a pas, c'est peut-être la faute de la réalisation, mais on n'a pas vu tant de dépassements des Mercedes que ça. Quoi. Parce qu'en même temps, il y avait Weber qui remontait, il y avait Raikkonen.
Elles étaient comment en vitesse de pointe cette semaine, les voitures? Notamment les Mercedes et la Red Bull. C'est surtout pour savoir si Vettel aurait pu dépasser Rosberg.
J'ai pas le classement sous les yeux.
Non.
Donc, si quelqu'un a l'information sur le chat,
j'ai regardé plein de documents pour préparer l'émission, mais pas les vitesses de pointe du temps.
Après, vu les vitesses qu'a montré Vettel, sans avoir les données, vu ce qu'il a montré ce week-end.
Après, à Singapour, c'est pas trop la vitesse en ligne droite qui peut le rendre rapide, c'est surtout ça. On l'a vu, c'était criant en sortie de virage. La motricité de cette voiture, elle est juste démente, quoi. Ils sont une étape devant les autres, quoi. Donc c'est ce qu'il fait gagner, je pense, ce week-end, et ce qui fait que la véritablement dominé ce week-end. Mais c'est surtout c'est en vitesse de pointe. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait vraiment une grosse vitesse de pointe cette semaine. Après, c'est vrai que c'est pas non plus.
Si on en croit les commentateurs, les McLaren étaient rapides en vitesse de pointe, il me semble.
En ligne droite, oui.
En ligne droite. Oui, le problème pour McLaren en ce moment, c'est les virages.
On va aborder le podium. Et à la troisième place, il a marqué 2141 points. C'est un peu le héros du week-end et de dimanche.
Retenez bien ce chiffre, 2141 points. Parce que c'est un petit peu serré sur le podium.
Un petit peu.
C'est un tout petit podium.
C'est, ouais. À la troisième place, c'est Kimi Raikkonen. Il partait 13e.
Le dépassement sur Button,
il est superbe.
Ouais, c'est juste, c'est magique. Quoi. C'est à l'extérieur, Je m'extasie peu devant Raikkonen. Donc là, chers auditeurs de
Raikkonen, alerte.
Je trouve, sincèrement, je pense que c'est l'un des plus beaux dépassements de la saison et sans doute des deux trois dernières saisons. Et surtout, ce qui est important dans ce dépassement, c'est que après, effectivement, on peut juger qu'il y a la différence de pneus, que la Lotus était peut-être plus fringante sur ses pneus à ce moment-là. Mais surtout, ce qui est important, c'est que on a vu là un pilote qui a pris sa chance. Sur un Grand Prix comme celui-là. Là, un peu comme en Hongrie, la chance sourit aux audacieux. Et là, il a pris sa chance. Il est passé à l'extérieur. Il a pris le risque de rouler dans les marbles et compagnie. C'est juste à un moment donné, le dépassement il est merveilleux aussi parce que le pilote il a tenté là où les autres se contentent de faire à la queue leu leu et d'attendre la zone DRS. Il a tenté. Et ça, sincèrement, moi je trouve ça, non seulement le dépassement en soi est beau, mais l'intention qu'il y a derrière. Et voilà, moi je veux voir plus de dépassements comme ça. Et j'en ai marre cette zone DRS. Je le dis clairement, j'en ai ras-le-bol. C'est virer la moi et laisser les pilotes, inciter-les à véritablement dépasser, qu'on les encourage, qu'on donne un bonus de points au mec qui fera plus de dépassements en piste. Enfin, j'en sais rien, mais qu'on les incite à véritablement se sortir les doigts du cul pour nous fournir des dépassements comme cela, parce que c'est ces dépassements-là qu'on veut voir en Formule 1. J'ai dit doigt du cul, ça faisait longtemps que j'ai pas dit.
C'est vrai, ça fait longtemps.
Vous nous l'avez énervé, hein.
Ah non, mais moi, ça, sincèrement, j'ai trouvé, il y a quelques manœuvres qui étaient très sympas dans ce Grand Prix, mais le dépassement de Raikkonen.
Non, bien
après,
sûr.
On peut rajouter effectivement le fait qu'il a mal au dos. Je relativiserai sur le fait qu'il y a l'adrénaline de la course, qu'il était quand même gonflé à la cortisone.
Lui dit qu'il a plus subi le contre-coup après la course,
oui.
Pendant.
Raison, enfin, il a été sous cortisone pour avoir été sous cortisone, tu sens rien. Au pire, ça a même un côté excitant. Enfin, moi, je sais que
La cortisone est un produit dopant, c'est interdit.
J'ai dit à tous mes médecins de ne plus me donner de cortisone, ça m'énerve, ça provoque même des réactions violentes chez moi, donc surtout, faut arrêter. Donc, ça peut être même plutôt être plutôt quelque chose de bon pour Raikkonen sur sa course.
Après, ouais, sans doute que quand il est sorti de la voiture, avec l'adrénaline calmée... D'ailleurs, alors, bon, peut-être que je surinterprète, hein. Mais vous avez remarqué, dans la salle, juste avant le podium, Alonso et Vettel sont debout. Lui, il restait assis. Hein.
Oui.
Oui.
Je surinterprète peut-être, mais peut-être que si, que... Même si après, sur le podium, apparemment, ça allait.
Mais après, alors il y a Mac Patton qui souligne sur le chat qu'il y a la différence des pneus, et c'est vrai qu'il faut pas retirer non plus dans le dépassement de Raikkonen qu'il y a cette différence des pneus. D'ailleurs, je l'ai dit, il y a une différence de pneumatique, même s'ils sont à ce moment-là sur la même stratégie, il y a une différence de pneumatique. Mais au moins cette différence de pneumatique, elle n'arrête pas les pilotes à une seule zone et ne les met pas dans une position d'attentisme. Un pilote va quand même tenter un dépassement. Et ce qu'on voit sur le dépassement de Raikkonen, c'est que même avec une différence de pneumatique, un pilote arrive quand même à nous sortir une belle manœuvre.
Ouais,
c'est pas un pilote qui, dans une courbe, bénéficie d'une meilleure, d'une meilleure adhérence de ses pneus.
Dépassement sur l'extérieur. Hein.
Voilà, il dépasse sur l'extérieur dans un virage qui ressemble quasiment à une épingle sur un circuit urbain. Enfin, voilà, certes, il y a la donnée pneumatique, mais le fait qu'il le fasse à cet endroit-là, de cette manière-là, montre qu'il a pas non plus, il s'est pas seulement appuyé sur la donnée pneumatique. Ça a été une donnée parmi d'autres, mais comme à une époque, c'était le plein de carburant ou comme d'autres trucs, mais voilà, il nous a vraiment sorti un beau dépassement, bien travaillé, bien réfléchi et bien réalisé.
Comme quoi, il n'a pas perdu de sa motivation malgré son nouveau contrat. Moi,
non, c'est un pilote de course, je veux dire.
Oui.
S'il y en a bien un sur les 22 qui va donner, il va se donner à 100% à chaque fois, c'est bien lui, quoi.
Après, c'est vrai que sur le restant de la course, on ne voit pas trop.
Non.
Il arrive sur la fin de
non,
course.
Non, il remonte progressivement. Mais oui, après, c'est vrai que...
Il ne fait pas non plus une course extraordinaire, mais il y a cette manœuvre. Voilà, à un moment donné, il y a l'opportunité. Il l'a saisie, il est sur le podium. Voilà, l'opportunité stratégique, plus l'opportunité en piste de gagner une place. Voilà.
C'est une remontée très progressive qu'il fait. Hein. Il est 13e au bout de deux tours. Il est 12e. Enfin, il n'a pas fait de zigzag malgré le safety car, par exemple.
A priori,
ça a été une remontée très...
Il est
très classique.
Après le premier arrêt au stand avant le safety car, il est 9e et il est juste derrière Button.
Oui.
C'est-à-dire qu'après, à part Button, il a doublé personne, quoi. Tous les autres se sont arrêtés et c'est pour ça qu'il remonte.
Mm.
Mais bon, il faut toujours... alors, il a la voiture pour, mais il faut toujours quand même un peu de talent pour appliquer ses stratégies. Hein, c'est-à-dire...
Puis encore une fois, on a là deux champions du monde. Et mine de rien, ce genre de dépassement, sans accroc, sans rien, il y a vraiment qu'entre des pilotes de cette pointure-là qu'on peut les voir.
Ouais.
C'est du même acabit que le dépassement d'Alonso à Monza sur Weber. Quoi, voilà, c'est juste, tu regardes, c'est juste, tu dis, voilà, ça passe, c'est bien fait, c'est bien réalisé, et tu sais que c'est fait par, il y a un champion face à un autre champion, et voilà, c'est beau à regarder, quoi. Moi, j'aimerais en voir comme ça plus souvent, des dépassements.
Avec Maldonado.
Ah, la vache.
On va aborder la deuxième place.
Oui.
Il a marqué 2204 points.
On était à combien, 2000?
220. Ah. Ça s'est joué à 16 points et ça a beaucoup bougé hein, au cours des 48 heures.
Ouais.
J'ai la peur, Gus Gus, là.
D'après toi, c'est qui, Gus Gus?
J'ose espérer que c'est Alonso deuxième.
Ah, dommage, on va te décevoir.
Mais si, il a raison, c'est Alonso qui est deuxième.
Ah. Excusez-moi, je respire. Il n'y a que 16 points d'écart. Donc
il n'y a que 16 points d'écart.
Il n'y a que 16 points d'écart. Ouf, c'est scandaleux.
Et
c'est...
pendant un moment, Alonso était premier.
Alors on est bien d'accord, c'est complètement... Enfin, on reviendra peut-être sur la course de Vettel à un moment donné.
Oui, parlons d'Alonso.
Alonso.
Mais Alonso, il fait un bon départ. Après, la stratégie est là, il reste en piste. On ne va plus à la fin de la course.
Un bon départ.
Il fait un bon départ.
Départ.
Non.
Oui.
Il est extraordinaire. Non, il fait un bon départ.
Il fait un premier virage extraordinaire, si on veut être précis.
Moi, sincèrement, je trouve que j'étais impressionné par le départ à Vif. Après, vu en caméra embarquée, en fait, c'est un peu Moïse qui a la mer rouge ouverte devant lui. il est passé, il n'y avait rien. Après, il fait un premier virage magnifique. Mais voilà, on a vu sur des départs, j'ai des départs d'Alonso qui me viennent en tête qui sont bien plus spectaculaires. Là, c'est vrai qu'il a quasiment la voie ouverte jusqu'au premier virage. Il s'élance bien. Bon, c'est pas surprenant pour Ferrari. Et là, il se retrouve troisième. Après, en course, il fait sa stratégie. Il tient bien le rythme de course. Mais il n'y a pas grand chose non plus. Le résultat est là, le départ est spectaculaire, notamment dans le premier virage. Après, c'est pas non
après,
plus.
Après, il y avait plus qu'à appliquer la stratégie.
Il pouvait pas non plus faire plus, quoi. D'ailleurs, globalement, les pilotes ont pas. Enfin, globalement,
c'est sûr qu'ils pouvaient pas faire mieux que deuxième.
C'est soit ils jouaient au départ, soit ils faisaient un dépassement fantastique. Bon, bah Alonso, il avait pas eu de dépassement à faire puisque le mec qui était devant lui, il était trop loin. Celui qui était devant lui en début de course, il s'est arrêté au stand. Il était sur une stratégie différente. Donc Alonso, il a été un peu tranquille à un moment donné. Et à la fin, il était complètement tranquille et il a pu assurer sa deuxième place.
Après, il avait quand même un bon rythme, avec des pneus qui ont devaient durer 36 tours. 36 tours, moins les 5 tours de safety car, mais quand même, ça fait une moitié de course avec des pneus médiums. Et finalement... la personne qui s'est arrêtée et qui était le plus loin était quand même à 20 secondes, quoi. C'était assez clairement soit la bonne stratégie, soit la bonne façon de piloter en préservant les pneus, quoi.
Vous avez rien d'autre à rajouter sur Alonso ?
Moi, j'avoue, j'ai envie de parler d'un autre pilote, mon
père. Alonso, quand on voit le vendredi, c'est vrai que le voir deuxième à la fin de course, tu te dis, mais comment, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Une météorite ou parce que vendredi, les Ferrari étaient vraiment nulle part, quoi.
Alors qu'eux-mêmes disent qu'ils ont progressé. Enfin, Alonso a dit qu'ils avaient progressé ils avaient gagné un ou deux dixièmes. C'est dire ça alors que t'es largué le vendredi, faut quand même avoir des coronaises, gros. Comme des pêches.
C'est peut-être le signe aussi que la Red Bull à Spa et à Vettel et à Monza était pas au max, hein. Enfin, c'était un circuit qui lui convenait pas, alors imaginez.
Ouais.
Oui. Ah bah on a trouvé le circuit qui lui convient.
C'est clair. Mais que Ferrari a officialisé, ils arrêtent le développement. Ils officialisent, hein, sur ces déclarations.
Attends, ils arrêtent le développement ou ils ne jouent plus le titre? Ou ils ne jouent plus le titre?
Ah, ils vont toujours jouer le titre, mais ils vont toujours essayer. Ils disent, voilà, si jamais on abat Vettel et que, bon, Alonso, il arrive à marquer des points.
Ils ont engagé un tueur à gages.
On va peut-être être champion. mais en tout cas, en termes de développement, ils vont travailler sur ce qu'ils ont actuellement, mais maintenant toute l'équipe va se tourner vers 2014.
Ouais.
Après, ça, c'est ce qu'ils disent officiellement aujourd'hui. Rien ne dit qu'ils essaient pas d'endormir leur monde. Ma théorie du complot.
On va évoquer le premier. Il a marqué 2220 points. C'est juste un monstre. Ce qu'il a fait ce week-end, c'est...
Comment te dire?
Alors, sur le chat, si vous avez mis Vettel deuxième ou troisième ou même dixième ou vous l'avez pas mis,
bouchez-vous les oreilles.
Manifestez-vous déjà, essayez de justifier ça, quoi. Je veux dire, c'est une démonstration incroyable, quoi, ce qu'il fait Vettel. Je veux dire, deux secondes,
oui,
trois secondes.
Oui, Seb, tu peux rouler deux secondes plus vite que les autres. Oui.
Pas de problème.
Oui.
Voilà, après, faut quand même souligner, c'est que c'est très spectaculaire, il s'est pas arrêté. Il est sur la même stratégie que les Mercedes, par exemple. Et derrière lui, il creuse aussi l'écart sur des pilotes qui sont déjà en train de préserver leurs pneus parce qu'ils vont essayer d'aller au bout.
Oui.
Mais quand même 2,5 secondes. Enfin, déjà dès le départ, il claque 30 secondes avant la safety car. Derrière, en 15 secondes.
Sur les gens qui sont sur la même stratégie, il creuse 51 secondes sur Rosberg.
Avant la safety car.
Après, tu es obligé aussi d'inclure quand même le trafic.
Et avant la safety car, il gère parce qu'on lui dit ne pars pas à 2 minutes parce que va y avoir une safety car, tu vas tout perdre. Ça ne sert à rien.
C'est surtout ça le plus impressionnant en fait, c'est qu'il a géré.
Il le fait, il y a la safety car, il redémarre, on dit ouais, bon, et là, pouf, 2 secondes, de tour.
Il y a eu 61 tours sur la course, il y a 5 qui sont sous safety car, donc ça fait 56. Il a dû attaquer 10 tours, les 5 premiers de la course et les 5 premiers d'après le safety car, et après il a eu plus qu'à gérer, et pourtant malgré ça, il creuse un écart, il creuse un écart de 32 secondes sur Alonso, 51 sur Rosberg qui est sur la même stratégie. Alors oui, Rosberg effectivement prend du trafic parce qu'il faut dépasser les Sauber et les McLaren, etc.
Ah ouais, attention, je donne des arguments pour donner des arguments.
C'est... Je sais, bien sûr.
Moi j'ai été sur le cul tour après tour dès que j'ai vu les écarts.
mais voilà, mais il y a un tour, je sais plus lequel c'est, 33e ou 34e, il prend 3 secondes sur Rosberg qui est derrière et qui est pas dans le trafic, qui est pas en mode conservation de pneus parce qu'il est sur la même stratégie. Ouais. Voilà, à partir de là, c'est fait quoi. Il y a rien d'autre à dire. C'est...
Alors on a Fab qui n'a plus de micro, qui n'a plus de connexion, mais qui pose quand même des questions
sur le chat
oui. Et qui nous demande si Ricciardo ne se serait pas mis volontairement dehors pour aider Vettel à montrer qu'il était un monstre. Et d'ailleurs, je crois sincèrement que c'est aussi à mettre en la démonstration qu'il a livrée en course. C'est aussi à mettre en corrélation avec l'indignation qui se fait enfin jour dans le paddock face aux huées où non seulement des Loda mais aussi des patrons d'équipe, Domenicali, Whitmarsh aussi en a parlé, des pilotes aussi en ont parlé. Je crois qu'Hamilton a aussi dit ça par rapport aux huées. C'est pour le coup, voilà, c'est, là il y a vraiment un ras-le-bol quand on a un pilote qui te fait la démonstration qu'il a fait. On peut dire que c'est la voiture et compagnie, d'accord. Il y a sans doute un pourcentage de la voiture, c'est indéniable.
Il est où il a la meilleure voiture,
c'est une évidence, c'est la meilleure voiture. Mais le mec te colle quand même 32 secondes en à peine plus de 15 tours. Il te gère la course de façon mais absolument géniale. Enfin, à un moment donné, t'es juste obligé de respecter le travail de cette équipe et le travail de ce mec et même les autres. Enfin voilà, même Alonso a dit mais voilà, félicitations à Seb. Qu'est-ce que tu veux dire à un moment donné devant autant de classe et de domination, et je dis bien classe parce que ce mec a la classe sur le podium de dire ah bah ouais non mais c'est un groupe qui fait un petit tour touristique, ils viennent grand prix après grand prix, et je me demande comment il fait ce mec pour garder la patate alors qu'il est en train de il est aujourd'hui je pense pas au sommet de son arme, il est aujourd'hui en train de te faire des démonstrations au volant de sa voiture et que tout le monde dit que il doit tout à sa voiture, qu'il se fait huer. Je me demande comment ce mec fait pour garder le moral,
qui se fait huer et qui est premier du classement, 16 points devant Alonso, alors que franchement, il n'y a pas photo quoi. Je sais pas combien de personnes ont voté. Ça peut se calculer si tu additionnes tous les points et que tu divises par le nombre de points qu'on. Mais bon.
Par 101.
Voilà, c'est ça, par 101. C'est pas normal. C'est-à-dire, il faut avoir de la merde dans les yeux pour mettre Vettel autrement que premier. Hein. Je le dis comme je le pense.
Et rappelons quand même que à la fois Gus Gus et moi-même, pour ceux qui ne seraient pas au courant, oui, sommes fans d'une écurie rouge.
Marussia.
Voilà. Oui.
Non mais disons-le, il y a pas spécialement des fans de Vettel ici. Enfin, pas que de Vettel. Voilà.
Non mais voilà, enfin voilà, c'est quand même à un moment donné, c'est même
un moment, en étant voilà, fan, faut respecter quoi.
Même en étant fan de Ferrari, que ce soit Gus Gus ou moi, ou que ce soit Shinji qui est fan de Raikkonen, à un moment donné, il y a le talent d'un pilote qui est indissociable du travail de l'équipe et on n'est pas là.
D'ailleurs, il a dit, certains sur le chat le disent, lorsqu'il a parlé à Horner, il a dit, il n'a jamais conduit une voiture aussi bonne avec les médiums.
Oui, voilà, enfin c'est aussi.
Et pourtant, il y a 2 ans, sa voiture, c'était pas de la merde.
Encore une fois, il faut aussi rappeler que c'est un pilote qui bosse énormément. C'est le seul pilote qui, la première saison, est allé voir chez Pirelli comment il faisait ses pneus. Que Pirelli, à la fin de saison, dit bah oui, c'est le seul qui est venu. Même Red Bull n'est pas y allé. C'est Vettel qui est allé de son propre chef voir l'équipe, enfin voir Pirelli. Alors, c'est un mec qui ne laisse rien au hasard, qui est un super communicant. Alors c'est sûr qu'il peut paraître aseptisé et compagnie, mais c'est le champion des années 2010. Il est la synthèse de tout. Il a à la fois ce petit côté Kimi Räikkönen un peu glaçant parfois, un peu ironique dans cette déclaration. On se rappelle de sa déclaration de sa réponse à la question de Julien Febro sur les enfants en disant moi j'en suis aux essais libres, mais en même temps il a ce côté très cadré quand il pense aussi à remercier en français le motoriste Renault. Enfin voilà, c'est un super pilote, c'est un tout. C'est à l'image de Schumacher qui avait réinventé le rôle du pilote. Bah je trouve que Vettel il repousse la chose un peu plus loin. Il est effectivement indissociable de Red Bull, mais c'est aussi, je pense qu'aujourd'hui, je m'engage, mais je pense qu'aujourd'hui, personne, et je dis bien personne en Formule 1, ne serait capable de faire ce qu'il fait avec la Red Bull, parce que personne n'aurait la discipline qu'il a. Mettez un Alonso dans la Red Bull, je suis pas sûr qu'il aurait la discipline de Vettel, qui régulièrement se fait rappeler à l'ordre, en lui demandant de se calmer, de tenir ses temps autour, de surveiller ses pneus et compagnie. États-Unis, comme il le fait. C'est pas facile pour un pilote de mettre son ego de côté, de dire j'ai la meilleure voiture, je pourrais en faire ce que je veux, je suis seul en piste. C'est pas facile pour un pilote qui plus est triple champion du monde de se dire mon ingénieur me demande de ménager ma mécanique, je vais le faire, je vais pas faire mon petit caca nerveux comme on l'a vu faire par certains pilotes, Alonso, Raikkonen, Hamilton pas trop cette année. Enfin voilà, il l'a fait. On va pas rabâcher qu'effectivement il a fait des erreurs par le passé. C'est sûr qu'il y a peut-être eu plus belle course parce que voilà, en plus qu'il n'en fait pas. Il y a peut-être eu plus belle course. J'ai eu ce débat sur Twitter. Il y a effectivement peut-être eu d'autres courses références au titre du fait que on m'a cité le Grand Prix d'Espagne 2011 parce qu'il résiste à Hamilton. C'est des courses références parce qu'il est dans la difficulté. Mais la course référence, ça reste malgré tout. Et c'est ce qu'a dit Loda, c'est qu'à un moment donné, les gens qui sifflent n'ont pas compris ce qu'est la Formule 1. La Formule 1, à un moment donné, c'est celui qui est vainqueur parce qu'il a été le meilleur. Et aujourd'hui, le meilleur, ça reste Vettel. On peut imaginer toutes les théories de complot. Le meilleur, c'est Vettel. Certes, il a la meilleure voiture, mais il l'exploite comme le fait pas Weber. Weber, il a le matériel, il pourrait se motiver. Vettel, lui, après 3 titres, il domine et il continue toujours d'avoir la motivation, toujours d'avoir l'envie de vaincre. Enfin, j'arrive pas à comprendre qu'on eut ce mec et qu'effectivement on ne le mette que 16 points devant Alonso au classement du SAV. C'est juste impensable sur cette course. Il est juste magistral, quoi. C'est de la lignée d'une course à la Lewis Hamilton au Grand Prix de Grande-Bretagne il y a 2008, je crois. C'est la lignée sous la pluie, oui, la lignée des plus grands chefs-d'œuvre d'Ayrton Senna. Enfin, voilà, ce mec, il a dominé de la tête et des épaules. Il a humilié la Formule 1 ce week-end. Il a humilié ses rivaux parce que c'est une humiliation qu'il leur a fait subir.
Sur un circuit de pilote, faut rappeler.
Voilà, c'est même physiquement. Enfin voilà, c'est quand même une course qui dure 2 heures. Tous les pilotes le disent. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est qu'on réduise le nombre de tours à Singapour parce que c'est une course très exigeante. C'est la course la plus difficile de l'année. Il est là, quoi. Il y a pas une erreur. Il y a rien. Le week-end, il est parfait. Alors, je veux bien qu'il aille la voiture aussi pour le faire, que ça serait forcément plus difficile avec une mauvaise voiture, mais jugeons aussi Vettel sur ce qu'il fait avec la voiture qu'il a actuellement. Ce qu'il fait avec la voiture qu'il a actuellement, c'est juste...
Et puis, la voiture, elle est à ce niveau aussi parce que lui, il l'a développée, il a de bons retours, je veux dire, sans un bon pilote, sans un pilote qui sache développer une voiture, tu ne fais pas une bonne voiture parce que tu envoies l'équipe dans de mauvaises directions et tu ne peux pas développer une voiture correctement. Il faut un pilote bon metteur au point et Vettel apparemment est un bon metteur au point parce qu'il amène une voiture à être aussi dominatrice.
Le classement, au classement du SAV, c'est Vettel qui est devant, 221 points, devant Alonso, 207, Hamilton, 166, Raikkonen, 152. Au classement des équipes, Ferrari, 326, Red Bull, 319, Mercedes, 269, Lotus, 228. Dans l'autre classement, Vettel est devant, 247 points, 60 points désormais devant Fernando Alonso, 187, Lewis Hamilton, 151, Raikkonen, 149. Chez les constructeurs, Red Bull 377 points, Ferrari 274, Mercedes 267, Lotus 206.
Ce que j'espère maintenant, c'est que Red Bull va laisser Vettel être Vettel. Et va le laisser, quitte même à ce qu'il perde des points et quitte même à peut-être ce qu'il perde le championnat en faisant des conneries, mais qu'il le laisse attaquer et qu'il le laisse montrer. Moi, j'ai toujours dit, ce que je veux de Vettel, c'est qu'il est capable de nous fournir des courses comme il a fait ce week-end, quitte à tuer parce que le suspense est mort pour la fin de saison, quitte à tuer le suspense, mais qu'il le tue dans les grandes largeurs, qu'il colle 30-40 secondes à chaque course aux autres pilotes et qu'au moins il aille chercher ce quatrième titre en mettant du panache et en mettant en éblouissant tout le monde et en humiliant tout le monde comme il l'a fait ce week-end. Moi, c'est tout ce que je souhaite parce que maintenant, son quatrième titre, il est quasiment dans la poche et ça va faire se taire les gens qui le huent et qui le critiquent et ça va juste amener à un moment donné à la fin de saison au Brésil, je l'espère, si ça se passe comme ça, ça va amener juste des gens qui vont dire respect. On est en train de voir un pilote juste qui aujourd'hui maîtrise à 100% sa voiture, qui se maîtrise lui à 100% et qui est champion et qui est pleinement mérité. Et enfin voilà, moi j'espère vraiment que Red Bull va lui lâcher un peu la grappe et le laisser se battre avec lui-même seul contre tous, mais parce qu'il est capable de le faire, il a une maturité aujourd'hui, il a un self-control qui vont lui permettre de je pense de dominer le, mais qu'il domine, qu'il explose tout le monde, je m'en fous, mais qu'il le fasse.
Ah, puis il y aurait un drive-thru à mettre à d'autres personnes aussi. aux 10 autres écuries qui n'arrivent pas à produire des voitures au niveau de la Red Bull.
C'est ça aussi, c'est à un moment donné.
McLaren, Ferrari, c'est quand même pas Mercedes, c'est quand même pas des noms qui sont n'importe lesquels, qui sont quelconques. Je veux dire, à un moment, ils ont les budgets, ils ont les ressources, ils ont les pilotes. À un moment, il va falloir performer parce que Red Bull, c'est du très très haut niveau en face. Il va falloir mettre tout ensemble pour que, au lieu de siffler Vettel, c'est les autres écuries qui vont siffler. C'est Ferrari, c'est Red Bull, c'est Mercedes. Non, c'est Red Bull. C'est McLaren, c'est Mercedes, c'est Lotus. Alors Lotus ont moins de moyens que les autres, mais n'arrivent pas à aller concurrencer une écurie qui a les moyens, qui a les personnes, qui a le professionnalisme, qui a une structure et qui est soudée, qui travaille depuis 4 ans main dans la main. Et qui est au plus haut de ce qu'elle sait faire depuis son arrivée en Formule 1.
On va passer au fait marquant.
Ouais.
Et ça se voit qu'on fait pas les émissions d'après Grand Prix, nous autres chroniques.
On vous rappelle le sondage du dernier Grand Prix. Donc, quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Italie? Vous avez été 105 à voter. Merci à vous. De même, merci à tous ceux qui ont voté pour le top 10. Est arrivé troisième avec 24 votes. Monza, dernier Grand Prix en rouge en terre italienne pour Massa. À la deuxième place, Hülkenberg au top, bientôt dans une nouvelle écurie. Et premier, 45 votes, Vettel en orbite pour les titres sous les huées des tifosi.
C'était toi ça, non?
Oui, c'était moi.
Oh, espèce de démagogue.
Ouais, mais à chaque fois, je gagne. Parce que je suis professionnel, parce que, tu vois, je suis comme Red Bull au niveau du fait marquant. Je suis efficace.
Le Red Bull de la présentation de podcast.
Donc c'est moi qui commence, du coup, parce que j'avais choisi Massa.
Ah bah oui.
Donc, ce sera Vettel, la chanfare des chevaux. Voilà, Vettel, la chanfare des chevaux.
Oh, toi, tu veux gagner.
Non, j'aime bien perdre, Shinji. Je sais, ouais. Être dernier, ouais, ça me fait plaisir.
On me reproche d'être démago pour gagner.
Mais ça, tu gagnes voilà,
en jouant
sur la misère
des gens.
Mais est-ce
qu'on te reproche de gagner en étant démago?
Gus, je te propose de prendre la place de l'invité.
Oui. Grosjean ne manque pas d'air, mais pas son moteur.
On peut-être aussi proposer à Fab, qui était là au début de l'émission, de nous dire sur le chat ce qu'il proposerait comme fait marquant. Histoire de
Grosjean ne manque pas d'air, mais pas son moteur.
Oui, qui lui manque d'air. T'as vu un peu le processus
Attends, Grosjean ne manque pas d'air, mais pas son moteur. Donc
bah,
son moteur ne manque pas d'air.
Ah non, lui,
ah non,
manque
lui il manque d'air.
Son
okay.
manque d'air.
Hein, assez compliqué, hein, une proposition.
C'est compliqué,
Ah, les gars de la technique, c'est...
Bon, Fab apparemment ne fait pas de proposition.
Non, c'est qu'il y a un décalage.
Oui, je sais, mais... Non, mais en fait, je voulais en profiter pour le griller, c'est pour ça.
Ouais. Fab, dépêche-toi.
En fait, Fab, il discute sur le chat, mais il n'écoute pas l'émission. Oui. Il s'en fout complètement.
Bah, il est plus dedans. Il est... Voilà, moi, je serais comme lui. Hein. D'ailleurs, on a un peu l'impression que les auditeurs n'écoutent plus l'émission. Ils parlent d'autre chose. Ils sont en train de faire leur émission sur le chat.
Le chat est aussi fait pour qu'il y ait des échanges entre les auditeurs. C'est ça qui est bien.
Oui. Et rappelons que tout cela, c'est sur www.savf1.fr.
Fais chier, merde.
Et donc, Fab nous propose Raikkonen et sa remontée fantastique. Avec entre parenthèses, prends ça.
Il n'y a même pas un jeu de mots, je suis déçu. Quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il décline, Fab. C'est depuis qu'il fait les articles très bien écrits sur Jim Clark.
Je savais qu'il fallait que je grille. Merde, que je vais dire, moi, maintenant.
Ah, tu peux mettre Raikkonen, ne tourne pas le dos à Lotus.
Non, on va pas mettre deux trucs sur Raikkonen. Bon, tant pis, je gagnerai pas. Je vais mettre Rosberg à cru, trois petits points, deux virages.
Juste du cru.
Oh mon dieu.
Je sors.
C'était pas obligé. Bon, voilà.
On est désolé, on est en direct, alors on est obligé de vous le laisser. On pourrait couper, mais bon, non.
Fab est pas là, il faut bien qu'il y ait. Hein.
Ouais, mais Fab, il fait des bons jeux de mots.
Vous m'avez compris. off.
Donc, cette semaine, pour le fait marquant du Grand Prix de Singapour, vous aurez le choix entre Vettel lâche enfin les chevaux, Grosjean ne manque pas d'air, mais pas son moteur, Raikkonen et sa remontée fantastique, ou bien Rosberg y a cru deux virages.
Ah, Fab propose Raikkonen et sa performance en dos majeur.
Va te faire foutre, je vais le dire plus tôt. tiens.
Donc là, même nous ne voyons pas, mais nous devinons ce que vient de faire Chizzy comme signe à Fab.
C'est une belle histoire d'amitié, ça, vous savez.
On peut pas se piffrer en privé, mais bon, faut faire bonne figure pendant les enregistrements et les directs, quoi.
Et on va passer au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Ah, Austin Powers me manque. C'est la trilogie, tiens.
Alors, vous souvenez-vous de la question qui avait été posée aux auditeurs?
Oui, c'était sur la pub Rolex.
Oui, la fameuse pub Rolex, qui a été changée cette semaine.
Oui, d'ailleurs, rigolo, ça.
Ils ont décidé de faire une pub un peu rétro. Alors, Dino, je crois que tu nous faisais la remarque la semaine dernière, on en discutait. Ce qui est drôle, c'est que la montre qui est présentée dans la pub, c'est une Rolex Daytona.
Ouais, c'est bien pour faire la pub de la F1.
C'est vachement lié avec la F1.
De la même manière, dans la liste des circuits qui n'apparaissent pas dans la publicité, Rolex, dont on vous parlait, le seul circuit sponsorisé par Rolex, celui de Melbourne, n'apparaît pas. Il y a une pub spécifique où il n'y a que Melbourne, avec d'autres circuits, mais dans la pub qu'on voit le plus souvent, il n'y a pas Melbourne.
Alors, vous avez été 6 à répondre. Hein, et tu te rappelles, hein, tu avais promis que tu prendrais aussi en compte le nombre de bonnes réponses.
Oui. Hein, donc j'en ai compté 8.
Alors, il y a bien plus que ça, parce que alors je dois avouer, hein, je me suis aidé en partie des gens qui nous ont répondu, parce que certains ont été extrêmement précis, ont même indiqué les virages qui étaient présentés. Nous, on ne demandait que les grands prix. Hein. Et
il y en a plus que 8.
Non, c'est pas le scénar, non, pas vrai.
Oh, bah écoutez, si je prends le détail, hein, que j'ai pu reconstituer avec toutes vos réponses. On commence avec le Grand Prix d'Inde.
Hein. Exact.
Puis on passe à Singapour.
Tout à fait.
En Corée.
Ah non. Ah.
Oui, oui, en Corée, oui.
Ah, oui, on voit le mont. Oui.
Mais la Corée, on la voit deux fois d'ailleurs.
On va voir.
On la voit deux fois. On voit une bataille avec Hamilton et Alonso qu'on voit dans c'est le virage 4, 5, 6, je crois. Et on la voit se finir dans le virage 6, un peu plus loin dans la publicité.
Attends, bon, on va faire la suite, on verra si on est d'accord ou pas.
Il a été trouvé le Canada, la ligne droite au Canada.
Avant le Canada, il y a Abu Dhabi.
Oui, Abu Dhabi. Alors, j'ai peut-être pas tout, hein, parce qu'après, c'était vraiment dur. Alors, le plan que personne n'a trouvé et que je crois est impossible à trouver, c'est le plan sur la McLaren de Jenson Button. Qui est
celle où il
n'y
a pas de circuit?
Oui, bah oui, voilà.
Ah bah oui, mais d'accord, mais ça, je l'ai sauté.
Voilà, celui-là, on ne pouvait pas trouver, puisque gros plan, et il n'y avait même pas de refus.
On aurait même pu essayer, j'ai poussé le vice quand même, à me dire, je vais peut-être essayer de reconnaître les circuits lors des arrow-stands.
Eh bien, il y en a un qui a réussi à en trouver deux.
Et tu es sûr?
De photos. Il m'a montré les comparaisons de photos, et en effet, à partir des traces, mais pas tous, hein. Il en a trouvé... Oui, bah, pas des traces de pneus, les traces par exemple, les craquelures sur la piste, des choses comme ça.
Oh là là, nos auditeurs sont des psychopathes.
sont des psychopathes. Hein.
Qu'est-ce qu'on ferait pas pour gagner une casquette Pirelli?
J'ai du Bahreïn.
Bahreïn.
À un moment,
oui.
on voit les couleurs bleues de Bahreïn.
Ouais.
Monaco.
Tout à fait.
Alors ensuite, c'est le moment des pits. Alors le pit Lotus, pas trouvé. Le pit McLaren serait en Malaisie. Alors là encore, c'est pareil, hein. C'est par rapport, tu sais, aux craquelures sur la piste, les taches d'humidité, tout ça, il a pu retrouver les photos. C'est assez fou. Ouais. Ferrari, ça sera en Espagne. Ensuite, il y a la Hongrie, je crois que c'est, on voit le panneau Pirelli.
Oui, enfin, c'est entre le virage 1 et 2.
1 et 2.
Et la Hongrie, je l'ai pas reconnue.
Eh non, quelle honte.
La honte sur moi.
C'est celle où il y a un pont. C'est celle où, enfin, c'est une caméra fixe qui donne sur
le
pont.
Non, le pont, c'est pas Suzuka, le pont?
Ah non. Ah non, parce que c'est pas dit qu'il y a la piste qui passe par-dessus. C'est un pont piéton, quoi.
Il n'y a pas Suzuka dans la liste.
Il n'y a pas Suzuka.
Alors après.
Moi, je suis sûr que le circuit sous le pont, c'est Suzuka.
Ah non, j'ai vérifié, je suis allé voir
non,
sur Google, sur des photos, c'est la Hongrie, entre le virage 1 et 2.
Après, j'ai une deuxième fois Singapour.
Il y a une deuxième fois Canada avant.
Oui, il y a une deuxième fois Canada, une deuxième fois Singapour. J'ai Valence parce qu'on voit les murs bleus. Alors j'ai eu par contre au niveau des virages, j'en ai eu un qui a dit le 6, l'autre le 16, mais bon, en même temps,
c'est le dernier virage en fait.
Voilà,
c'est le freinage où ils arrivent en appui super.
Et vite. J'ai le final sur le tunnel à Monaco.
Ouais, bah ça va, par la Corée j'avais 8.
Donc il y en avait facilement
9.
4, 5, 6. 7, 8...
Bah moi, je suis quand même d'avis de ne pas compter les... parce que les...
Ah oui, 9 et 2 et 2 pits.
Les 2 pits, sincèrement...
Je recalque.
Donc tu nous les dis dans l'ordre du nombre de réponses. De celui qui a trouvé le plus de circuits...
Non, mais je vais dire la question et à chaque fois le nombre de réponses
D'accord.
qu'il a eu. Attends, je corrige juste là... Alors, à noter que j'ai eu une réponse avec 5 bonnes réponses, sachant qu'on en demandait 6.
Bah oui, bah non. Enfin, les minimum 6, on a vu qu'il y en avait 9, donc 5, c'est pas suffisant. Désolé, hein.
Parce que celui qui en a noté 6, en plus, a cité Monza. Et pour le coup, dans toute la liste, pourtant, on en a évoqué pas mal de circuits là-dedans, il n'y avait vraiment pas Monza, quoi.
Ah, il faut changer de lunettes, cher auditeur.
Mais quand même, soulignons quand même, vous êtes des gros malades. Hein. Oui. Sincèrement, vous êtes des gros malades. Êtes allé chercher des photos de l'année dernière pour voir, parce que je suppose que pour trouver, vous avez fait toutes les photos de stand sur toute la saison.
Non, Abu Dhabi, celui d'Abu Dhabi, en plus, il était difficile à trouver parce que c'était soit Singapour, soit Abu Dhabi. Et moi, j'ai trouvé en allant voir les allocations de pneus parce qu'il y avait une des trois voitures qui était en médium. Et donc, c'était
aux auditeurs, lui.
Mais oui! C'était la question la plus intéressante de toute l'année. Alors
on a une réponse à 8 bonnes réponses.
Oui, c'est cette phrase est française.
Je recompte bien. La question: quelles sont les marques japonaises qui sont apparues en F1?
Ouais. Ça me passionne.
Déjà, c'est pas clair. Est-ce que c'est
les marques
de voitures,
japonaises,
des motoristes, des sponsors? Déjà, c'est
tu vas te marrer. Hein.
Parce que si tu comptes les sponsors de si tu comptes les sponsors de Kobayashi, là, de sushi, de je sais pas quoi, ça peut aller loin, quoi.
Encore une fois, 8 réponses. Deuxième proposition. Lorsque vous quittez Singapour pour aller en Malaisie, quelle quantité d'essence doit être présente dans votre véhicule?
Lorsque vous quittez Singapour pour aller en Malaisie.
c'est con comme question. C'est un piège, non? Il y a un piège, je suis sûr.
Ensuite, une proposition à 9.
9 sur 11, hein, du coup, parce qu'il y a les pits, il y a
ouais, les instants. Ouais, oui. D'accord, oui. Tu es prêt, Dino?
Oui, vas-y.
9 secondes après le vert, je suis déjà dans le rouge. Qui suis-je?
9 secondes après le vert, je suis déjà dans le rouge. Ça me plaît bien, ça. Parce que chaque personne va avoir la bonne réponse et ça me plaît bien.
Ensuite, une proposition avec 7 bonnes réponses.
Ça baisse.
Franchement, c'était pas mal. Hein. Citez au moins 5 chansons dont les paroles contiennent l'expression Formule 1.
Ah, c'est pas mal. 5 chansons dont les paroles contiennent le mot Formule 1.
C'est extrêmement ouvert comme question. Et enfin, la dernière qui est à 9 aussi. Qui est le dernier pilote en date à avoir remporté 3 années de rang le même Grand Prix?
Il avait combien de bonnes réponses, lui?
9.
9.
Bah, à 9, la question sur « je passe au rouge, au vert » est mieux, je trouve. Même si, pour le coup, je trouve la question... J'avais dit qu'on essaierait de donner avantage à celui qui a donné plus de bonnes réponses. Après, c'est vrai que cette question-là me semble... Je sais même pas où chercher, en fait. C'est-à-dire que sans avoir à poser des questions, si c'était un quiz du début d'émission, ça irait, parce qu'on pourrait poser des questions, on pourrait avancer. Mais là, je pense aux auditeurs qui vont être devant ça. Sans pouvoir poser de questions, ça va être difficile de répondre. Et puis, j'avoue que j'aime bien la question... je crois que Gus Gus, c'est un peu pareil. J'aime bien la question sur les chansons où il y a le mot « Formule 1 ». C'est des chansons françaises ou des chansons internationales? Est-ce qu'il a au moins fourni une liste de minimum 5?
Oui. Et pour être très tout à fait honnête, je connais pas tous les noms, j'en connais que 3 sur 5. Il se peut qu'il y en ait un, ça soit pas français.
Non mais qu'on soit clair, qu'on dise Formula 1 ou Formula 1, quoi.
Oui, mais il y a bien au moins 5 propositions. Et il dit bien, lui, c'est les 5 qu'il a trouvées, mais on peut sans doute en trouver plus.
Alors voilà, pour le coup, il y a 7 réponses, mais moi je serais bien tenté par cette question-là. Je sais pas ce que t'en penses, Gus Gus.
C'est vrai que moi je suis très musical comme personne. Et c'est vrai qu'à 9 secondes après le vert, je suis déjà dans le rouge qui suis-je. Enfin, c'est très, très, très abstrait. On tient peut-être un futur chroniqueur, mais on tient pas un auditeur.
Je pense sincèrement qu'on va partir sur la question qui me semble un peu plus simple et tout aussi intéressante d'ailleurs que celle qu'on a eu cette semaine. Et minimum 5 chansons et enfin pareil. Si vous en trouvez plus, on essaiera de donner l'avantage.
Voilà. Dans vos messages, n'hésitez pas. Alors sans forcément me foutre en pièce jointe les textes en fichier Word tout ça. Juste un lien internet avec les paroles et moi je pourrais les regarder. Hein, y a pas de souci. Donc on part sur la question sur les chansons.
Ouais, on part sur celle-là, ouais.
Allez.
Donc citer au moins 5 chansons dont les paroles contiennent l'expression Formule 1. Eh bien bravo Steve, tu gagnes la casquette Pirelli.
Oh non, pas Steve encore. Non, finalement non.
Vous avez choisi.
Oui, mais je savais pas que c'était Steve.
Ouais, pour le rassurer, on l'aura pas choisi.
Alors on va remercier Alan qui a été le fou, qui a été capable quand même de retrouver des photos.
Non mais t'es pas bien Alan.
Les arrêts au stand.
Alan, il faut Alan. Te faire soigner, c'est... Alan.
Donc il avait posé la question, qui est le dernier pilote en date à avoir remporté 3 années de rang le même Grand Prix? Alors il a précisé, on ne compte pas Vettel s'il gagne à Singapour cette année. D'accord. Et la réponse, c'est Massa à Istanbul, 2006, 2007, 2008.
Ah ouais, ouais.
Et après, sur les 10 dernières années...
Massa a gagné des courses en F1.
Oui, et sinon, ouais, ensuite, sur les 10 dernières années, il y a 4 fois Schumacher, à Montréal, Barcelone, Imola et Indianapolis.
Rien que ça.
Globalement, entre 2002 et 2004. Et Raikkonen, 3 fois à Spa, en 2004, ouais. 2005 et 2007, mais pas 3 années consécutives.
Ah oui.
On va saluer Nicolas, qui lui aussi avait trouvé beaucoup de réponses et qui avait été très précis. Alors, c'était lui, là, l'énigme, 9 secondes après le vert, je suis déjà dans le rouge, qui suis-je?
Le compte en manque de Lotus.
Non, j'arrive même pas à voir ce que c'est 9 secondes après le vert.
Alors, je vais vous dire.
La jauge du Kers?
Non, c'est Romain Grosjean qui, 10 secondes après le feu vert du départ de Spa en 2012, heurte Alonso.
Oh, ah oui, c'est bah alors, sincèrement,
je suis content de ne pas avoir choisi ça parce que je pense que personne n'aurait trouvé.
Ouais, franchement.
Surtout qu'en plus, c'est pas le vert, il n'y a pas de feu vert en Formule 1.
Oui,
c'est l'extinction des feux rouges, mais il n'y a pas de feu vert. J'ai un doute là d'un coup.
Oui, ouais, mais on peut dire que la piste est en statut drapeau vert.
Ouais.
Eh bien, finalement, c'est un bon choix, même si c'est Steve qui a gagné le cadeau.
Ensuite, il y avait Adelin qui avait posé la question, lorsque vous quittez Singapour pour aller en Malaisie, quelle quantité d'essence doit être présente dans votre voiture?
Bah, zéro, c'est bien, frontalier.
Non, il faut que ton réservoir soit aux 3/4 plein, car l'essence est nettement moins chère en Malaisie.
Je comprends pas la logique derrière, du coup.
Bah, je pense que c'est pour éviter que les gens de Singapour, tu sais...
Non, mais en fait, tu veux dire qu'il faut vraiment... il y a une loi qui t'oblige à avoir aux 3/4 plein.
Oui, il y a une loi.
Ah, d'accord, ok.
C'est ça le truc. C'est pas conseillé. C'est obligé. Faut que ton réservoir soit trois quarts plein.
À Singapour?
Quand tu fais Singapour, Malaisie. Parce que l'essence est moins chère en Malaisie.
Ah oui, donc en fait, c'est de la contrebande de carburant, donc
c'est pour éviter, voilà.
C'est comme si nous, on obligeait les Français à avoir le réservoir 3 quarts plein en allant en Andorre ou en Belgique.
Ouais, d'accord.
Voilà, pour éviter de payer moins cher. Alors qu'il suffit juste d'aller à Leclerc, là, le
ils sont fous à Singapour, hein. T'as pas le droit de mâcher de chewing-gum ou je sais plus quoi. Pas le droit à d'autres choses aussi, mais bon, on est un podcast familial.
C'était Adelin. Et enfin, la dernière, c'était celle de Clément, Oasis 35, qui l'a peut-être cherché rapidement. Je sais pas s'il peut nous confirmer, mais vu qu'il l'a envoyé pendant le live du SAV, c'était la question sur les marques japonaises qui sont apparues en F1.
Oui, bah, c'était bien pour Av.
En fait, voilà. C'était Toyota, Honda et Aguri. Aguri Suzuki, enfin Super Aguri.
Comme quoi, il faut participer avant l'émission, pas pendant le live. C'est le live, on peut pas faire deux choses en même temps.
Attends,
faut
c'est
pas
une super émission sur la F1. Des constructeurs japonais, du coup?
Bah, je sais pas, la question c'est quelles sont les marques japonaises qui sont apparues en F1?
Et tu vois, comme tu fais ta question pendant le live, tu réfléchis pas à la formulation.
Est-ce qu'il a envoyé la réponse avec?
La réponse, lui, il a cité Toyota, Honda et Super Aguri.
Et il en manque, il y a Kojima, il y a des trucs dans le genre aussi, dans les années 70.
Oui, il y a pas Maki, un truc comme ça. Oui, Yamaha, Dome, peut-être pas des équipes, mais peut-être des moteurs. Non, oui. Je suis pas sûr. Ou peut-être des protos.
Des moteurs, il y a Subaru aussi qui a fait des moteurs de F1.
Oui, bah Oasis 35, il dit, il s'en fout, il a eu son ticket.
Ouais. C'est pas moi qui écris le règlement, mais si j'étais Charlie Whiting, hein, c'est...
Oui, parce que rappelons-nous que tous ceux qui ont donné la bonne réponse, enfin une bonne réponse, minimum 6 bonnes réponses sur la précédente question, gagnent un ticket pour le tirage au sort que nous effectuerons en fin de saison. Et on fera un tirage au sort ensemble, je dis, parce que je vais revenir en Normandie.
Oui.
Pour remporter donc un casque à l'échelle 1, une réplique du casque à l'échelle 1 de... Alain Prost, 1993, le fameux casque avec le petit Sonic sur le dessus.
Il va aussi te trompe à chaque fois. Hein.
Je sais pas pourquoi
pour commémorer les 20 ans du dernier titre d'un pilote français, messieurs.
Oui. Donc, on vous rappelle la question pour la semaine prochaine. Citez au moins 5 chansons, donc ça peut être français, anglais, limite n'importe quelle langue,
Moldave,
qui contiennent l'expression Formule 1 ou Formula 1 ou même F1, à la limite, on peut l'accepter aussi. Et la semaine prochaine, justement, celui qui gagnera pour cette question, qu'est-ce qu'il gagnera, Dino?
Alors attention, là nous allons en Corée du Sud.
Oui.
Et la Corée du Sud se caractérise par... Attention, souvenez-vous, Corée du Sud, fermez les yeux, imaginez Corée du Sud, le Grand Prix de Corée du Sud à Yeongam.
Ah, une cité portuaire?
Oui, et donc?
Un parapluie.
Eh ben non, vous allez gagner une serviette de plage McLaren, si vous répondez bien à la question suivante, je te dis.
Donc, citez au moins 5 chansons dont les paroles contiennent l'expression Formule 1 ou F1 ou Formula 1.
J'en vois même pas une seule, je suis scotché devant cette question.
Bien, c'est tout pour le concours, pour cette semaine. Oui,
effectivement. Alors maintenant, on va se tourner vers le prochain Grand Prix, déjà, on va demander à Gus Gus de nous dire ce qu'il achète avec 40 euros.
Attends. Déjà, il faut rappeler les adresses. Déjà, si, pour participer au concours, l'adresse, c'est concours@savf1.fr.
Oui.
On vous rappelle aussi que la semaine prochaine, il y aura un mag, donc il y aura un répondeur. Même si on a la question d'Adelin bien au chaud, vous pouvez nous poser des questions sur le répondeur, soit via l'adresse mail répondeur@savf1.fr ou via le module audio qui est présent sur le site web www.savf1.fr.
Peut-on vraiment parler d'un site web ?
Écoute, c'est une page.
C'est une page.
Et la page d'accueil marche. Le reste, non.
Voilà, on va essayer de rendre la page d'accueil, parce que la page d'accueil marche, mais c'est toujours une émission d'il y a 2 mois. On va essayer de résoudre ça pour que vous ayez un accès quand même aux dernières émissions depuis la page d'accueil, et aussi un accès au live sans avoir à saisir toute l'adresse.
Ça, c'est une question qui, je trouve, est importante. Finnegan la pose dans le chat. Non, c'est Totor, pardon. Finnegan, l'adresse, c'est concours@savf1.fr. Totor demande si la chanson de Gus Gus compte. Entre guillemets, est-ce que les chansons que nous avons faites au SAV de la F1.
Ah non, mais on parle des chansons SACEM, enfin des chansons faites par des vrais artistes.
Non, mais c'est important.
Je t'en prie.
Non, mais je suis un artiste, mais voilà, je veux pas, tu sais, par rapport à l'égard à toi.
J'aurais voulu être un artiste.
Pour pouvoir faire ton numéro.
J'ai une idée de chanson. Je vais prendre ces deux phrases et je vais développer un peu.
Non, non, on parle de vraies chansons, pas de parodie du SAV, quoi. Ça se trouve, le nombre tombe à 2.
Non, je peux vous dire que dans les exemples qui ont été cités, il n'y avait pas de chansons parodiques du SAV.
Ah, ouf.
On n'oublie pas qu'il y aura encore des Grands Prix d'ici la fin de saison, que peut-être vous souhaitez participer à un SAV d'après Grand Prix. Dans ce cas-là, si vous souhaitez participer, envoyez-nous un mail à contact@savf1.fr. Est-ce que tu sais où ça en est au niveau des plannings, Dino ?
Non. Non, voilà. Sincèrement, je tiens à dire qu'on prendra vraiment seulement les nouveaux auditeurs et on verra aussi si on a le temps, la disponibilité pour pouvoir assurer le montage qu'il y a derrière et tout le travail qu'il y a derrière. Parce que vraiment, le live pour nous est vraiment un outil qui nous fait gagner énormément de temps. Voilà, en termes de qualité, on pense qu'on est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on faisait quand on faisait du montage et que c'est à vous de juger, mais pour le moment, on maîtrise plutôt bien le live, même s'il y a toujours des améliorations à faire et qu'on est très exigeant envers nous-mêmes, mais c'est vrai que l'idée de pouvoir faire des lives nous retire une épine du pied, donc voilà, posez quand même votre candidature, si vous n'êtes jamais venu, on essaiera de s'arranger, mais s'il n'y a pas de candidature ou s'il y a des gens qui sont déjà venus, je préviens par exemple déjà Adelin qui s'est posé candidat pour le Grand Prix d'Inde, je crois, voilà, si vous êtes déjà venu, on fera sans doute un SAV live entre nous ou avec un invité dont on est sûr de la qualité qu'on a déjà reçu, dont on est sûr de l'installation audio et voilà.
Alors, dans 2 semaines, par contre, c'est la suite du championnat. C'est la Corée, ce Grand Prix tellement aimé, n'est-ce pas ?
Et qui va réussir ce que ne va pas réussir à faire l'Inde. C'est-à-dire à faire fin de saison, début de saison.
Mike dit le défaut du live, c'est qu'on ne peut pas faire pause pour pipi. Eh bien, la pause musicale, normalement, elle sert à ça.
En même temps, ouais. T'es con parce que tu mets des bonnes musiques, Shinji.
Il faut mettre de la merde pour ça.
D'accord, donc en gros, la prochaine fois, je mets de la merde en pause musicale.
Mais ça sera dans le thème. Mais du Bogie de Fontaine, ça fera fuir les gens, c'est bien. Si j'ai un ami qui m'écoute, il va me tuer.
Ah ben oui, je sais. Alors Mike Patton dit qu'il avait pas envie à ce moment-là, mais on peut pas faire.
Tu veux qu'on te laisse, Shinji, pour faire le chat live commenté ? C'est son plaisir.
Oui.
On voit qu'on te gêne, que tu te sens bien avec les auditeurs, donc ne te gêne pas.
Mais moi, j'aime bien faire des lives, c'est cool. Donc allez, revenons au Grand Prix de Corée. Vos pronostics.
Dur pour la première pour la deuxième place, hein, parce que bon, il faut quand même qu'il y ait un peu de challenge. Non, Vettel, je pense que c'est la partie, hein.
Je crois que ouais, moi aussi. Malheureusement,
Allez, Fernando Alonso, j'y crois. Je ne le renoncerai pas. J'y crois. Mais en fait, j'y crois pas, mais je fais semblant. Comme tout le monde. Comme Alonso, d'ailleurs, je fais semblant d'y croire.
Allez, on arrive à la fin de l'émission. Hein. On vous rappelle, comme d'habitude, que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est en live sur le site www.savf1.fr/live. C'est sur Facebook, c'est sur Twitter avec le hashtag SAVF1.
Voilà, on vous incite vraiment à nous suivre sur Twitter via le hashtag ou sur la page Facebook parce qu'on vous annonce les horaires de live, on crée des événements sur la page Facebook pour vous prévenir qu'il y a un live, le début de l'horaire et compagnie. Enfin, le début de l'horaire, le début de la diffusion. L'horaire de début, voilà. Merci Gus Gus, on peut toujours compter sur toi. voilà, donc c'est on va aussi essayer vraiment de se servir aussi des réseaux sociaux pour, dans le cas des lives, vous tenir informé. Parce qu'on n'a pas forcément les. Là, vous voyez, on enregistre lundi, alors que généralement, c'est le mardi. Donc, ouais. Voilà, au moins, comme ça, vous serez informé et vous pourrez tout suivre en direct.
N'oubliez pas, la F1 sur Internet, c'est sur
fanf1.com.
Oh, du nom, on t'entend pas. Ça.
Ouais, non, enfin, non, mais c'est... je lisais un commentaire sur le chat qui parle de ma voix suave.
Parce que le SAV de la F1, c'est.
Le rythme des podcasts.
Voilà.
La famille, c'est en couleur, c'est gratuit, c'est en direct, c'est trop de la balle. C'est. Bon, j'arrête là.
On a dit que c'était en live. Je crois que les gens ont compris.
Je crois
en
que
live.
Les gens ont compris, oui.
C'est vrai que le flou de sur Twitter, H-6, tout ça.
Ouais, surtout n'hésitez pas à faire tourner hein, le live.
Oui, c'est vrai que. Bon, c'est déjà bien parce que vous étiez plus nombreux que la semaine dernière.
C'est pas plus mal.
Oui, la semaine dernière, c'était vraiment. On payait les pots cassés, hein, on va dire.
C'était compliqué, oui. Merci à vous, merci aujourd'hui Line de vous avoir suivi, merci aux auditeurs podcastiques d'avoir suivi ce podcast, et comme d'habitude pour les SAV d'après-course, on va se quitter sur cette poésie, ces réflexions de Dino.
Oui, bon, c'est un petit proverbe, sincèrement pas très original. Hein. Je vais être honnête, je vais m'auto-torpiller. Hein. Je vais m'auto-humilier. Je vais m'infliger une vételle. Voilà. Maintenant, ça sera le nouveau mot. Je vais m'infliger une vételle. C'est un petit proverbe sur la nuit, évidemment, et qui est le suivant. La nuit, l'ennui, nuit.